Bienvenue dans le débat interdit, franc-maçon contre catholique. Mais quelle est l'influence de la franc-maçonnerie dans l'histoire et aujourd'hui? Est-ce que la franc-maçonnerie contrôle nos élites politiques et économiques? De l'autre côté, assiste-t-on à une résurgence du catholicisme? Est-ce que Dieu est finalement la clé du salut de la France? Installez-vous bien confortablement, car Jean-Maxime Corneille et Adrien Abosi vont s'affronter pendant 2 heures sur ces sujets. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique.
Nous sommes en guerre.
Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, d'être sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors aujourd'hui, évidemment, le débat interdit, franc-maçonnerie contre catholicisme, qui va gagner? Oui, parce qu'on est comme ça ici à Géopolitique Profonde. Mais avant ça, la lettre de Géopolitique Profonde du mois d'avril. On fêtera les 1 an demain. Émission surprise demain pour les 1 an de la lettre de Géopolitique Profonde. Vous avez vu là avec notre ami Poutine. Il n'a pas écrit, hein, mais il est sur la couverture. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous le procurer, vous cliquez sur le lien en description. Et n'hésitez pas aussi à nous soutenir, parce qu'il faut nous soutenir. Cette émission, c'est la vôtre. On est là pour vous. Donc vous cliquez sur le Tipeee Stream. Voilà, vous voyez, c'est entouré à ma gauche. Et vous aurez une surprise. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, ce sera franc-maçonnerie contre catholicisme. Est-ce que la franc-maçonnerie est une contre-église? Est-ce qu'elle apporte des bienfaits à la société? On en parlera entre nos deux intervenants. Voilà, donc Jean-Maxime Corneille, qui a fait son petit outing franc-maçon. Il est aussi analyste.
Il était pas prémédité, oui.
Il a traduit le charme discret du djihad. Il a écrit aussi toute la collection de Monsieur Pietschnik. Comment ça va, Jean-Maxime?
Ça va très bien, ça va très bien. J'ignorais initialement, je pensais que c'était un débat, mais là, c'est bien que l'on soit face à face, parce que le sujet est tellement vaste, on pourra ne pas être interrompu et on va essayer de débriefer pour une première fois le sujet. Et je serais même tenté de dire que ça ne sera pas la seule émission sur ce format qu'on fera, parce que c'est un vaste sujet avec plein de prolongations. C'est strictement impossible qu'on l'écluse en une seule fois aujourd'hui.
Voilà. Alors, ne bougez pas trop, parce que nous, on n'a pas les fauteuils de la reine d'Angleterre. Et donc, ça peut être fragile. Hein. Voilà.
Il a piqué ceux de Louis XVI, donc
À ma droite, Adrien Abosi, catholique, auteur « La France divisée contre elle-même ». Aussi, la gauche est une maladie mentale. Bonjour, cher Adrien, comment allez-vous?
Toujours content d'être ici, mon cher Maïk.
J'espère bien. Donc, vous allez débattre contre un franc-maçon en tant que catholique.
À certains égards, Jean-Maxime était courageux d'ailleurs de dire qu'il était franc-maçon, puisque quand même dans les médias dits alternatifs, la maçonnerie, à juste titre, selon moi, a mauvaise image. Donc, je pense que tu savais où tu mettais les pieds quand tu as dit ça.
Voilà. On va d'abord, je vais vous donner à chacun la parole, 3 minutes chacun, pour dire pourquoi la franc-maçonnerie, est une forme de bienfait. Voilà, est-ce qu'elle a porté à l'humanité? Et vous, cher Adrien, pourquoi la franc-maçonnerie est une contre-église? Voilà. Donc, Vous commencez, cher Jean-Maxime ?
Au choix de la parole à la Défense,
en deuxième. Allez, 3 minutes.
Là, c'est plutôt l'inverse. L'idée n'est pas de dire que la franc-maçonnerie est un bienfait pour l'humanité. Mon sujet, c'est surtout que la franc-maçonnerie est complètement duale. Et c'est pour moi le gros sujet à comprendre. Je ne suis pas là pour plaider la franc-maçonnerie. Justement, si moi j'en ai parlé, et si d'autres, ce qui est intéressant, c'est que sans moi l'avoir exactement prémédité, nous voyons plusieurs voix se lever justement pour diagnostiquer ce qui est de fait connu des initiés, entre guillemets, ou justement non connu, c'est-à-dire que la franc-maçonnerie est réellement, en réalité, un réseau d'influence avec plusieurs degrés de lecture, c'est-à-dire une société secrète, une société initiatique, clairement un réseau d'influence, et dans toute sa dualité, en fait. C'est ce que j'ai dit dans l'article du mois dernier, en fait, dans la revue, c'est qu'il y a toujours des réseaux d'influence, il y a toujours ce que j'appelle des réseaux ou des sociétés... je l'appelais comment ? Des réseaux de cooptation à des fins politiques. Il y en a toujours. La question, c'est à quelle fin ? C'est complètement dual en ce sens, et je n'irai pas dire de but en blanc que la franc-maçonnerie n'a été qu'un bienfait pour l'humanité, parce que mon sujet est précisément de dire que, dans son esprit initial, c'est-à-dire la véritable franc-maçonnerie opérative, initialement, elle était une bonne chose en tout cas, c'était absolument pas ce qu'elle est devenue par la suite. En revanche, ce que disent les francs-maçons, justement, je regarde le compteur si bien, je vais m'apercevoir qu'il y avait un compteur.
Ne regardez pas le compteur et dites ce que je vais dire.
Non, mais c'est très bien, justement. Il y a eu en réalité un passage de la franc-maçonnerie opérative à la franc-maçonnerie spéculative qui correspond exactement à ce que j'ai énoncé déjà dans GP, c'est-à-dire qu'il y a eu 5 siècles de subversion internationaliste au sein duquel on est passé de la franc-maçonnerie opérative à la franc-maçonnerie spéculative, et ça correspond exactement à l'accélération au début du mondialisme tel qu'il s'est solidifié aux États-Unis. Et c'est toute cette dualité qu'il va nous falloir comprendre ce soir, c'est-à-dire que elle était historiquement, la franc-maçonnerie opérative était basée historiquement sur un ancien paganisme et des secrets de construction réels qui étaient saints à l'origine, et sur une piété et sur une fidélité au roi, une piété chrétienne et une fidélité au roi, ce qui est complètement oublié aujourd'hui. Et sur cette charnière 1790-1750 à peu près, nous avons eu un passage de la franc-maçonnerie opérative à la franc-maçonnerie spéculative, et elle est devenue, là pour le coup, un instrument de subversion contre les États rivaux de l'Empire britannique. Ça serait pour la première présentation, donc encore une fois, le sujet est dual, et ça sera le maître mot, je pense, de ce soir.
Il reste 35 secondes.
À partir de là, en fait, la franc-maçonnerie est devenue en réalité un réseau d'influence au service de l'Empire britannique, précisément à partir du moment où Louis XIV perd 2 batailles cruciales contre l'Angleterre, qui était la bataille du Cap Bénévent, juste après la bataille de la Hougue, où nous avons perdu le Soleil Royal face à Cherbourg, et la bataille de la Boyne en Irlande, où l'Irlande, l'Écosse et la France perdent contre l'Angleterre avec le soutien des financiers internationalistes, dont notamment beaucoup de juifs hispano-portugais qui voulaient s'installer aux Pays-Bas, puis en Angleterre. Pipoil, c'est bon.
Merci, cher Jean-Maxime. Cher Adrien Abosi, est-ce que la franc-maçonnerie est une contre-église ?
Oui, sans aucun doute. Alors d'abord, cher Mike, pourquoi la France s'enfonce chaque jour qui passe un peu plus dans le chaos ? Parce que la société et les institutions reposent sur des mauvais principes. Principe laïciste, principe naturaliste, principe droit de l'hommiste. Quand je parle de droit de l'homme, je ne vise pas les libertés fondamentales, je vise les normes qui visent à séculariser et à déraciner l'espace public. Donc la franc-maçonnerie a été, ça n'a pas été la seule, mais ça a été une des grandes forces qui a véhiculé ces principes destructeurs. Et c'est pourquoi, dès que l'Église a eu connaissance de ce problème-là, elle l'a condamné, sévèrement condamné. Et non seulement elle le condamne, mais elle interdit à ses membres d'en faire partie, on ne peut pas être catholique et franc-maçon. Et Léon XIII même nous incite à combattre la franc-maçonnerie, à avoir un rôle actif. Bon. Donc la maçonnerie a très fortement contribué à subvertir les élites françaises, et elle a travaillé les esprits dans le mauvais sens. Il y a un ancien maçon repenti qui est connu, qui s'appelle Copin Alban Chély, qui a une bonne formule pour la maçonnerie. Il la qualifie, je regarde mes notes, de société de déformation progressive des consciences. Société de déformation progressive des consciences. Donc la maçonnerie a produit des hommes nocifs qui ont fait aller la France dans la mauvaise direction. C'est quoi la mauvaise direction ? C'est contre l'Église pour les droits de l'homme, contre le culte de Dieu, pour le culte de l'homme. Culte de l'homme, d'ailleurs, qui est une formule du Félon Paul VI. Et sachant que derrière le culte de l'homme, il y a la gnose. Hein, on n'est pas naïf. Bon. Et donc, du coup, ces hommes créés par la maçonnerie, ils ont été du mauvais côté. À chaque fois, pendant la Révolution française, un grand nombre de maçons, comme on le sait, ont été actifs. L'heure de gloire de la maçonnerie, c'est surtout la Troisième République. et la grande œuvre de la Troisième République, comme par hasard, bah, c'est la déchristianisation. Dans l'affaire Dreyfus, la maçonnerie n'est pas du bon côté. Dans l'affaire des fiches, elle n'est pas du bon côté. Dans la loi de 1905, elle n'est pas du bon côté. Sur le communisme, on est ambigu. D'un côté, on condamne, mais d'un autre côté, il y a beaucoup de grands communistes comme André Marty, le Fellon et le Boucher qui sont francs-maçons. La maçonnerie pousse à la création de la SDN, elle pousse à la prise de pouvoir de De Gaulle, elle participe à la création de l'ONU. René Cassin, rédacteur de la Déclaration des droits de l'homme universelle, était franc-maçon. Et la maçonnerie participe à ces fameuses lois dites sociétales ou bioéthiques, et notamment à la joie des rôles funestes, elle a participé à la mise en place de l'avortement en France avec le Fellon, enfin, le, c'est pas un Fellon pour le coup, lui, parce qu'il est dans le camp en face, Pierre Simon, voilà. Donc pourquoi je suis contre la maçonnerie? Pour deux raisons très simples, parce que c'est une ennemie de l'Église, et parce que c'est un instrument destructeur de la France et des âmes. Ceci étant posé, jamais la maçonnerie n'aurait eu autant de pouvoir si les Français étaient restés catholiques. Voilà, c'est tout. La franc-maçonnerie, c'est l'un des instruments de nos châtiments. Si les Français étaient restés catholiques, la franc-maçonnerie n'aurait jamais eu aucune influence, parce que par définition, son champ n'aurait pas pris, son rayonnement n'aurait pas pris. Voilà, ce sont des influences contraires. Donc on ne peut pas... pour moi, être anti-maçon sans être catholique, ça n'a pas beaucoup de sens. Après aussi, je pourrais développer, j'ai plus le temps, mais la maçonnerie, c'est une des matrices du mondialisme.
Ah, merci.
On y reviendra plus tard.
Cher Andréa Bozzi, il a eu des mots très durs sur la maçonnerie. Est-ce que ça, vous y reconnaissez là-dedans?
Il a raison. On ne raisonne pas en termes de personnes. L'idée n'est pas...
Attends, mais s'il a raison, pourquoi...
Je vais m'exprimer. L'idée n'est pas de raisonner contre quelqu'un. On ne débat pas contre quelqu'un, on débat avec quelqu'un. Et si on est un honnête homme, on dégage ensemble une vérité. Et en ce sens, nous sommes là pour ça. Et je te connais par ailleurs, Adrien. Je sais que tu es parfaitement honnête. Et d'ailleurs, ça doit être dit, en fait. Adrien m'avait offert justement ses ouvrages. Et je recommande vraiment l'ouvrage que j'aurais pu écrire quelque part à peu de choses près. Ça serait juste des bricoles, peut-être additives, mais... C'est une énorme somme qui mérite d'être lue et surtout d'être offerte. C'est bien de la remettre à côté parce que justement, pour moi, l'un des grands drames de la France, et ce en quoi je plaisante en disant que j'aurais pu l'écrire, c'est absolument pas une histoire d'ego là-dedans. C'est que, de mon point de vue, l'énorme problème de la France, c'est que dans l'histoire de France, il y a toute une série de schizophrénies superposées qui fait qu'aujourd'hui, les Français ne peuvent pas comprendre leur propre histoire. Et ça, c'est un véritable problème. Et de fait, je l'ai déjà dit sous un autre angle, ayant été prof d'allemand pendant 3 ans récemment au lycée, où tandis que moi je faisais des cours d'allemand et j'ajoutais des points géopolitiques un peu pour faire passer la grammaire allemande, histoire, c'est pas tout le temps digeste, mais en même temps, ça permettait de comprendre, parce qu'à notre époque, en fait, il n'y a pas vraiment de raison. L'allemand, en plaisantant, je dis que c'est quasiment une langue morte. C'est-à-dire, je le dis en plaisantant, mais en Allemagne, j'ai vu des Allemands qui enseignaient tout à leurs enfants en anglais. Génération américanisée, mais terriblement américanisée. Un peu moins dans l'Allemagne du Sud, en Bavière, où il y a encore une identité, mais c'est d'abord l'identité du Königreich Bayern, le royaume de Bavière avant l'Allemagne. On voit symboliquement le panneau, c'est la Bavière avant l'Allemagne. Bavière qui, historiquement d'ailleurs, était une alliée de la France. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que je dis, donc en plaisantant, que vu ce que moi je donnais, et parallèlement ce qui était donné à mes élèves, quand on nous vendait par exemple des héroïnes de l'histoire allemande, Rosa Luxembourg, ou des activistes communistes vraiment de façon assez complètement subversive, je disais que, je l'ai déjà dit sur notre antenne, l'éducation nationale nous fait perdre 15 ans de compréhension du monde. Et en ce sens, la France divisée contre elle-même, c'est absolument vrai. Et il est bon de comprendre pourquoi. Alors, et notamment, par exemple, cette schizophrénie, quand tu as parlé de Gaulle, incidemment, je te tutoie parce que je n'aime pas justement l'hypocrisie de faire semblant de se vouvoyer quand on voit à côté. Justement, tu l'as vécu dans une émission récente. Mais il est absolument vital d'essayer de remonter à l'époque de la naissance des différentes schizophrénies qui sont empilées dans l'histoire de France, notamment bien sûr la Révolution française, notamment la dualité de l'épopée de Charles de Gaulle. Parce que de Gaulle 63-69, je suis d'accord, mais de Gaulle avant, de 44 et de 58-62, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui a été fait. Par contre, de Gaulle a été une créature britannique, historiquement de l'Empire britannique. C'est l'Empire britannique qui, pour moi, a fait buter Darlan qui était, lui, bien plus favorable aux États-Unis. Et quand on dit que j'ai déjà dit que Vichy a collaboré, oui, Vichy a collaboré. Avec qui? Avec les Américains, bien sûr. Mmh. Ça, c'est une affaire qui est beaucoup moins manichéenne.
Adrien n'est pas de...
Non, mais c'est beaucoup moins manichéen. Ça part de vérité.
C'est beaucoup moins manichéen que ce qui en est dit. C'est-à-dire le gentil de Gaulle et le méchant Pétain.
Mais là, on est sur la franc-maçonnerie...
Non, mais la question, c'est pourquoi Pétain...
N'ouvrons pas les parenthèses.
Pas du tout, on est complètement dans le sujet et on a le temps. Pourquoi Pétain a-t-il fait à interdire la franc-maçonnerie? même les grands francs-maçons aujourd'hui qui s'expriment en France sur ce genre de sujet ne vont pas forcément le dire. C'est qu'il y avait vraiment des logiques de phagocytage, des logiques subversives contre la France qui s'en sont données à cœur joie avant 1940. C'était d'ailleurs un point extrêmement intéressant de Zemmour face à BHL quand Zemmour a eu l'entrejambe de dire qu'il a parlé clairement des juifs et des francs-maçons. C'était Zemmour qui disait que ceux qui nous ont fait perdre en 40, c'était les juifs et les francs-maçons. Rien que pour cela, Zemmour, il ne faut pas tirer sur Zemmour. Même si Zemmour se trompe par certains égards. Mais pour ce point-là, c'est la raison globalement pour laquelle Zemmour a été détruit en tant que candidat à la présidentielle en 2022, de mon intime conviction. Mais ce qu'il a dit était vrai, historiquement vrai. Encore faut-il comprendre les luttes d'influence internes au sein du judaïsme, puisque les juifs français étaient intégrés, mais c'était les juifs étrangers qui étaient des fauteurs de troubles, ce que Xavier de Hauteclocque, cousin du maréchal Leclerc, avait dénoncé dans un livre introuvable aujourd'hui qui s'appelle « Les mangeurs d'or en 1931 ». C'est-à-dire quand il disait que les... Et d'ailleurs, Annie Kriegel, le père d'Annie Kriegel, ou les juifs français le disaient aussi. C'est-à-dire que des juifs arrivés, notamment de Pologne, Lituanie, s'étaient livrés à de l'usure jusqu'à 500% en France à la suite d'une manipulation judiciaire pour rétablir l'usure que Napoléon avait fait interdire. Ça, c'est quelque chose qui a créé un affaiblissement de la France en 1940, mais aussi un antisémitisme réel en France à cette époque.
Si vous pouvez conclure, cher Jean-Maxime.
Donc là, on est dans un morceau du sujet. L'un des dessous pour lesquels les francs-maçons ou les juifs ont été persécutés, c'était des juifs étrangers. Les juifs français ont été préservés. Mais on a par exemple ce genre de schizophrénie dans l'histoire de France. Nous parlions d'ici la dualité entre Pétain et De Gaulle, dont notamment la franc-maçonnerie avait été tantôt l'invecteur, tantôt justement une institution à rabaisser.
Mais mon cher Jean-Maxime, ayant conscience de tous les maux portés par la maçonnerie, qu'est-ce que tu allais y faire ?
Dualité, parce que la franc-maçonnerie aujourd'hui est avant tout un réseau professionnel.
Ça ne m'a pas échappé.
Et dans un certain contexte, oui voilà, mais la dualité d'un réseau, en fait, ce que je dis, c'est que, indépendamment du fond de l'idéologie maçonnique, moi j'ai connu de façon très proche Stéphane Blais, nous devions jouer de la musique ensemble, c'était un ami. Et
qui est Stéphane Blais, pour ceux qui regardent ?
Stéphane Blais était un très grand pianiste français qui a écrit au sujet de la franc-maçonnerie et qui est décédé il y a quelques années dans des circonstances tout à fait suspectes. En aucun cas, il ne se serait jeté de son sixième étage en Suisse. Globalement, il était protégé par les Turcs qui ne l'ont pas protégé. Il y a eu une erreur quelque part. En tout cas, le résultat, c'est que Stéphane Blais est décédé dans des circonstances suspectes, mais était très lucide sur la franc-maçonnerie et avait notamment parlé de ses luttes d'influence. Par contre, je dis que sur certains points incidents, il se trompait ou il était exagéré sur certains points. Par exemple, quand il parlait du salut nazi, non, c'était de l'ancien égyptien, ça voulait dire prince. Ça avait un autre sens. Ça, c'est une parenthèse.
Très bien, voilà.
Mais,
pas trop longue, les parenthèses.
Très bien. Voilà. Non, nous avons quand même...
Pour que les gens ne se perdent pas, en fait. Voilà.
La franc-maçonnerie est donc un réseau. Dans tous les réseaux internationaux, notamment français, notamment avec notre ancien empire ou l'ancienne France-Afrique, nous avions des connexions maçonniques, par exemple, et tous les anciens du renseignement ou des forces de sécurité ne sont jamais très loin de la franc-maçonnerie. Et ce que je suis en train de dire, c'est que, en soi, ce n'est pas ce point-là qui est négatif, et vous le retrouvez dans toutes les cultures. Autre exemple, aux États-Unis, vous connaissez les Skulls and Bones, vous connaissez également les Mormons, ce sont deux creusets de recrutement qui sont connus, par exemple, pour la CIA. Pourquoi ? Parce que les Skulls and Bones, il y a une disposition d'esprit à ces confréries qui est propice au travail secret. Et pour les Mormons, il y a une austérité travailleuse qui est bien réelle chez les Mormons et qui en fait des recrues fiables.
Alors, j'ai une question à vous poser, cher Jean-Maxime.
C'est un système de sélection politique.
On a compris. Très bien. Merci de cette réponse, cher
Jean-Maxime. Non, c'est seulement partiel ce que j'ai dit. Je reviendrai sur ce point.
Non, mais voilà, on a le temps. Mais comme vous avez parlé de réseau d'influence, là, à tout de suite, vous avez parlé au tout début de réseau d'influence auprès de l'Empire britannique. Ensuite, pendant vos 3 minutes, vous avez dit, lorsque je crois qu'il y a eu des défaites militaires de cet Empire britannique...
De la France face à l'Empire britannique.
Non, vous avez dit des défaites militaires irlandais, anglais, etc.
Bon. Non, du tout. Je me suis pas trompé ? Je me suis trompé ou pas ?
Non, je crois... On était alliés avec
les... Je récapitule, une défaite française, là, Hougue, en 1690, nous avons deux défaites coup sur coup, 89-90, bon. La première navale, la deuxième terrestre, mais c'est la France alliée avec l'Écosse.
En tout cas, vous avez parlé de réseau d'influence auprès de l'Empire britannique. Est-ce que c'est pas antinomique avec... patriotisme français.
C'est précisément le sujet, en fait, parce que la base, en fait,
donc de
la franc-maçonnerie...
C'est pour ça que je voudrais vraiment qu'on rentre... qu'en fait, 2 heures, c'est pas long. Hein.
Ouais,
la base, donc c'est pour ça que je veux pas qu'on aille, qu'on ouvre des parenthèses dans des trucs qui...
Et pourtant, c'est le sujet pour l'instant. La franc-maçonnerie, à l'origine, était une confrérie opérative transnationale, y compris en Angleterre, mais à une époque où l'Angleterre n'était pas subvertie. Ça a commencé par plusieurs étapes, et en réalité, ça remonte à la Haute Antiquité. C'était des secrets de construction qui se transmettaient dans plusieurs cultures, notamment à partir de l'Orient, mais que l'on retrouve à la base, par exemple, de toutes les confréries qui bâtissaient, non pas les pyramides, mais les cathédrales, que cela soit en France, en Angleterre, en Allemagne, la cathédrale de Cologne, de Chartres, ou à Edinburgh, vous avez, au fur et à mesure, des confréries qui se sont constituées à partir d'anciens secrets de construction. C'est ce que l'on appelait la maçonnerie opérative, c'est-à-dire les opérationnels qui taillaient eux-mêmes la pierre. C'est-à-dire qu'il y avait des anciens secrets de construction, par exemple, vous avez énormément de secrets d'architecture ou de réussite dans la taille de pierre qui sont extraordinaires, auxquels vous pouvez assister partout, donc y compris en Angleterre. Par contre, le sujet, il est à croiser avec ce que j'ai déjà énoncé, et c'est pour ça que mes articles dans GP sont une continuité. Je suis arrivé ce mois-ci, en tout cas le mois dernier, à l'aboutissement des systèmes ou réseaux de cooptation à des fins politiques. Mais auparavant, j'ai parlé de 5 siècles de subversion internationaliste à partir de la Renaissance, c'est-à-dire le glissement progressif de l'ancienne société au Moyen-Âge, dans laquelle, par exemple, l'usure était interdite, au monopolisme britannique, c'est-à-dire à la puissance sacrée de l'Empire britannique qui est documentée. Vous voyez les travaux de Pierre Hillard, par exemple, là-dessus. C'est grâce à lui que j'ai eu quelques sources, notamment que je ne les connaissais pas toutes. Vous voyez Jean Lombard-Cœur de Roy, que tu dois connaître, sur le fait que, sur 5 siècles, il y a eu un glissement vers ce que j'appelle la subversion financière internationaliste. Mais c'est une lutte d'influence qui n'est pas terminée. Qui n'est pas due aux francs-maçons, mais...
Alors, conclusion, parce que Adrien Bozzi est vraiment très en
retard. Il a du retard. Oui, voilà. On va le compenser après. Oui. Qui a été... En fait, la fusion s'est opérée dans le sens de la subversion. Sur cette période dont je parlais tout à l'heure, entre 1690 et globalement 1750, guerre de 7 ans, on a à peu près la même époque, c'est-à-dire... La fin des opératifs et le début des spéculatifs, les marchands monopolistes ont remplacé les véritables tailleurs de pierre qui étaient des hommes pieux et basés sur des vrais...
Merci, cher Jean-Maxime. Est-ce que, comme le dit Jean-Maxime Corneille, cher Adrien, est-ce qu'en fin de compte, la franc-maçonnerie, c'est juste une forme de LinkedIn d'avant, quoi ?
Non, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la maçonnerie, c'est la contre-église, c'est l'une des grandes contre-églises. Cher ami, le mal... C'est contagieux. Donc, il faut faire très attention. C'est que même malgré soi, quand on fréquente des personnes mauvaises, eh ben, ça nous imbibe, etc. C'est d'ailleurs pourquoi le moral de l'Église nous demande de nous éloigner des personnes mauvaises. Tu évoquais que l'aspect réseau n'était pas forcément négatif. Bah, y a quand même un problème avec la maçonnerie, c'est l'aspect double allégeance. Moi, dans mon métier, j'ai été confronté 2-3 fois à la franc-maçonnerie, sachant que ce n'était pas moi personnellement qui était confronté, mais c'était mes clients. Si vous voulez quelques petites anecdotes, en fait, moi, je fais très peu de pénal. Hein. Je ne suis pas pénaliste, mais j'ai certains de mes dossiers qui ont des ramifications avec le pénal. Petite anecdote toute bête, avant un dossier qui devait se plaider au correctionnel, je précise que le dossier a été initié par un type de la GLNF, avant l'audience de plaidoirie, le juge qui s'occupe du dossier croise mon confrère, qui est avec moi sur le dossier, et il lui dit « Bon maître, vous n'allez pas faire appel. Le dossier n'est pas plaidé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?» Bon. Autre exemple que j'ai vécu, c'était dans un dossier, et là, la maçonnerie m'a fait perdre beaucoup de sous. Elle m'a évité de regagner, en tout cas. C'était un dossier imperdable. J'avais ça de pièces, béton armé, pour détruire totalement la lettre de licenciement adverse. L'avocat adverse était nul, mais minable, vraiment, il avait 30 ans de plus que moi, mais vraiment nul, etc. Dossier imperdable. La partie adverse verse des faux, je le prouve. Je le prouve tellement que l'un des conseillers MEDEF, quand je le montre, rigole. Tellement, c'est évident que c'est un dossier béton.
On était au prud'homme.
Oui, tout à fait. Et ben, je me suis fait défoncer. J'ai perdu. Le dossier était imperdable, vous voyez. Il y avait aussi la GLNF dans le coup. J'aurais pu vous évoquer d'autres choses que je n'ai pas forcément vécues personnellement.
Mais c'est des cas particuliers.
Non, c'est pas particulier.
On ne peut pas généraliser, pas d'amalgame.
Non, non. Il ne faut pas généraliser parce qu'il est totalement faux de dire que derrière chaque décision de justice, il y a une magouille maçonnique. C'est totalement faux et je récuse ça. Il y a des centaines de milliers de décisions de justice qui sont rendues par an en France. Il y en a peut-être 100, 200 maximum qui doivent être touchés par ça. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame, comme on dit. Mais c'est une réalité. Et la question qui se pose de la double allégeance, voilà. Donc, c'est problématique, c'est un court-circuitage de l'État. Autre chose qu'on m'a appris, c'est que quand on ne comprend pas pourquoi on se prend une garde à vue, Bah, des fois, c'est parce qu'il y a la maçonnerie pardon, derrière. Tu évoquais hein, d'ailleurs que, effectivement, dans les réseaux, ministère de l'Intérieur, voilà, ex-France-Afrique, parce qu'il bon, ne reste plus grand-chose, hein. ça va de moins en moins mieux. Enfin, en Afrique, il n'y a plus de France-Afrique. En France, c'est autre chose. Bref. Mais voilà, donc il y a la question de la double allégeance qui est posée, et cette allégeance ne va pas dans le sens des intérêts de la France, selon moi, et elle ne va pas dans le sens des intérêts de l'Église, ça va de soi.
Elle va dans les intérêts de la loge, essentiellement.
De la loge, du mondialisme, globalement, parce que la maçonnerie, c'est une des matrices du mondialisme. Il y a un adage maçon très connu, qui résume, je dirais, l'utopie maçonnique, qui est « rassembler ce qui est éparse ». Rassembler ce qui est éparse. Qu'est-ce que ça veut dire, rassembler ce qui est éparse ? Ça veut dire qu'il faut créer une fraternité universelle qui repose non pas sur la vérité, comme l'Église le souhaiterait, mais une fraternité universelle qui est créée sur le relativisme. Et d'ailleurs, si vous me permettez de prêcher pour ma paroisse, lorsque Bergoglio, le faux pape et vrai moderniste, fait une encyclique, une pseudo-encyclique qui s'appelle Fratelli Tutti, et qui propose la création d'une fraternité universelle et d'une gouvernance mondiale qui repose sur les droits de l'homme et la liberté religieuse, c'est un projet purement maçonnique. Et les conciliaires qui nous écoutent doivent savoir que sans qu'ils le sachent, ils participent à un projet purement maçonnique. Et ça, c'était d'ailleurs dès les constitutions d'Anderson, où il y a la fameuse phrase que je ne connais pas par cœur, mais c'est le centre d'union et le moyen de concilier une véritable amitié parmi des personnes qui auraient dû rester perpétuellement éloignées. Donc il y a cette idée, rassembler ce qui était éparse. Donc ça, c'est une des grandes matrices du mondialisme et de la gouvernance mondiale.
Est-ce que c'est un mondialisme, justement, tiens, la maçonnerie
c'est... Historiquement, c'est vrai, historiquement, mais c'est plutôt à comprendre comme un vecteur, et c'est là le passage dont j'ai parlé tout à l'heure entre l'ancienne franc-maçonnerie opérative, qui était avant tout des gens qui avaient juste la conscience de ce qu'ils bâtissaient. C'est Christian Jacques qui parle dans un livre sur les cathédrales de cette fable assez, enfin de cette un peu une allégorie que l'on raconte justement en termes de conscience, ce sur quoi étaient bâties les anciennes confréries de bâtisseurs. Lorsque on voit trois tailleurs de pierre, il y a trois tailleurs de pierre qui se voient demander la même question, qu'est-ce que tu fais ? Le premier c'est je taille une pierre. Le deuxième c'est je gagne mon salaire. Le troisième c'est je bâtis une cathédrale. Là, on parle de la conscience et on parle de l'état d'esprit des véritables bâtisseurs des cathédrales qui étaient basés sur l'excellence et l'idée que l'excellence devait être partout, y compris dans ce qui n'était pas vu forcément au premier abord, au premier coup d'œil. Là, on parle de l'idéalisme technologique qui a fait la vieille Europe. Nous parlons de cette communauté culturelle transnationale qui a fait la vieille Europe, la véritable. Par contre, il est tout à fait documenté que, en réalité, c'est consanguin à la naissance du mondialisme en Angleterre. Là, encore une fois... Dans ce même créneau, vous avez la création de la Royal Society en Angleterre, qui voulait faire de l'Angleterre le plus grand cénacle de marchands et le plus grand port franc du monde. C'était quoi la phrase exacte ? La Banque Générale est le plus grand port franc du monde. C'est-à-dire que vous avez, dès cette époque-là, ce qui a été concrétisé en 1694, c'est-à-dire la création de la Banque d'Angleterre, à savoir le début de l'argent-dette artificielle, le début du mondialisme tel qu'il s'est ensuite répandu au monde entier, notamment avec la création de la Fed 1913, anticonstitutionnelle. Nous avons également la dernière étape en Libye. Hein. La Libye, si elle s'est faite détruire, c'est qu'elle n'avait pas, c'était QAnon qui disait ça, c'est qu'elle n'avait pas sa banque à la Rothschild. C'est-à-dire que là, quand je parle de subversion financière internationaliste, c'est documenté.
C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a une franc-maçonnerie aujourd'hui, en 2024, hein, parce que
qui est devenue un vecteur.
On ne va pas revenir au XVIIe siècle.
Oui, mais c'est nécessaire, mais, parce que c'est le sujet. Le sujet, il est sur 4000 ans.
Mais que les gens aussi comprennent. C'est-à-dire quoi ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une forme de minimisation de votre part. C'est-à-dire qu'il y a une franc-maçonnerie, en gros, maison mère en Angleterre, et il y a une franc-maçonnerie française, d'où vous êtes, et dont, visiblement, vous vous détachez un peu.
Dual, encore une fois. Tout réseau politique est dual, absolument tout réseau politique peut être infiltré. Quand bien même vous auriez aujourd'hui un merveilleux réseau politique extraordinaire, rien ne vous dit que dans 30 ans, au passage de génération suivante, il ne serait pas détourné, quand bien même aujourd'hui, là, il serait basé sur des préceptes magnifiques. Pourquoi ? Parce que les humains restent des humains, mais aussi parce que en réalité, la franc-maçonnerie, il faut le comprendre à partir de sa suite, en fait, à partir des bâtisseurs de cathédrales, on a eu plusieurs étapes, et on a eu plusieurs étapes d'autorisation, puis d'interdiction, puis d'autorisation, puis d'interdiction. Qui était le premier protecteur des arts et des lettres, par exemple, dans l'histoire de France ? C'était pas François Ier, hein, l'un de nos pires rois, hein, c'était Charles Martel. Charles Martel avait protégé les confréries de bâtisseurs. Lorsque, juste après et avant, à deux étapes, ils ont été interdits. Ce concile de, je crois, en 658, je ne me souviens plus exactement, vous avez plusieurs conciles qui interdisent puis qui réautorisent des conciles ou des rois. qui, juste après, autorise ou interdise ce qui a été fait juste avant. Vous avez une lutte d'influence comme ça dans l'histoire qui est à la fois politique et à la fois religieuse de la vieille Europe. La question, c'est pourquoi ? C'est qu'à chaque fois, c'est la raison pour laquelle, notamment, les Templiers se sont fait zigouiller. C'est que quand vous avez des réseaux politiques qui deviennent trop puissants ou des réseaux qui sont à la fois politiques et financiers qui peuvent faire et défaire les rois, ça fait toujours peur. Tantôt, les rois s'appuient dessus en se disant que ceux-là sont des gars fiables, ils vont nous servir ou ils vont nous aider. Ou alors, au contraire, ceux-là, voilà, ils commencent à avoir trop de pouvoir, ils deviennent problématiques. En réalité, c'est vieux comme l'histoire de l'humanité. Mais suivant les souverains, quand bien même à une époque ça marche, 30 ans après ça peut ne plus marcher. Et de fait, c'est...
Vous êtes d'accord avec ça ?
Alors, il y a plusieurs points sur lesquels je souhaiterais rebondir.
Allez-y.
Tu évoques, cher Jean-Maxime, la maçonnerie opérative qui est devenue spéculative. Et en somme, tu nous dis, l'opérative était quand même plutôt bonne. Admettons-le, je ne connais pas ce dossier pour pouvoir me prononcer définitivement là-dessus, mais admettons-le. Il n'en reste plus rien aujourd'hui de maçonnerie opérative, il ne reste que la spéculative, et cela est intrinsèquement mauvaise. Intrinsèquement mauvaise, et elle n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait pu y avoir de bon dans l'opérative. Je ne suis pas sûr que Charles Martel aurait protégé le Grand Orient de France. Je pense même qu'il l'aurait traité comme d'autres personnes du côté de Poitiers. Voilà, donc c'est pas la même chose. Tu évoques aussi que c'est dual. Alors, il y a sans doute des conflits internes dans la maçonnerie, et de toute façon, une organisation... humaine, dans laquelle il n'y a pas de conflit interne, ça n'existe pas. J'ai beaucoup lu sur les croisades ces derniers temps, les croisés passaient leur temps à se mettre sur la tronche. C'est comme ça. Dual, sans doute, imposition interne, sans doute, mais aux dernières nouvelles, que ce soit telle frange ou telle frange de la maçonnerie, à chaque fois, l'influence va contre l'Église. À chaque fois, c'est la loi naturelle qui en pâtit. Je n'ai pas entendu telle loge ou telle frange de la maçonnerie s'opposer à telle loi bioéthique, se prononcer contre les droits de l'homme, contre l'avortement, etc. Donc, oui, c'est un peu comme les gangs, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on se répartit la part de marché, mais au final, on reste dans le même, dans la même influence négative. Quelle était votre question déjà, mon cher Mike ? J'ai oublié.
Ben justement, si vous étiez d'accord avec... Parce que regardez, moi j'ai les commentaires des gens, c'est prouve qu'on est en direct, et les gens, qu'est-ce qu'ils disent ? Notre ami Jean-Maxime Corneille, qu'au demeurant, on aime bien, hein. Moi j'aime beaucoup Jean-Maxime Corneille, c'est quelqu'un que j'ai découvert, ben, il cherche à édulcorer le sujet en faisant le lien entre les bâtisseurs des cathédrales et les francs-maçons qui ont pris leur symbole. Et moi-même, je ne veux pas être d'accord avec les gens, mais ils n'ont pas tort.
Non mais c'est vrai.
Oui ou non ? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté d'édulcorer ? Là on est un peu.
Écoutez, je suis pas dans le cerveau.
Une forme de politiquement correct.
Je ne me permettrai pas. Mais comme je l'ai dit, c'est qu'à considérer que la maçonnerie opérative ait été incrédicable d'un point de vue catholique, il n'en reste rien. Et quand on parle de maçonnerie aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est la plupart des gens sont des maçons, à mon avis.
C'est pas les bâtisseurs de cathédrales.
Non, c'est plutôt des destructeurs de cathédrales.
Bah voilà.
La maçonnerie spéculative est plutôt destructrice, je dirais, de cathédrales. Et c'est d'ailleurs l'un des grands. Enfin, voilà, c'est sa mission. C'est le fil rouge de l'histoire de la maçonnerie, c'est de s'attaquer à l'Église et à la loi naturelle. Voilà. C'est comme ça.
Précise de quelle Église nous parlons ?
Il n'y en a qu'une, cher ami.
Mais justement, mais précise-le parce que c'est le sujet.
La seule qui a été instituée par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Église catholique. Voilà.
Et les lois naturelles ?
Ah bah la loi naturelle, c'est les 10 commandements, en gros.
Si venait d'où ?
Du bon Dieu.
Et avant ?
Ah bah c'est déjà pas mal, non ?
C'est déjà pas mal,
ouais. Donc c'est quoi le avant ?
En tant que juriste, justement, ça serait intéressant d'en parler un peu sous quel angle ?
Bah, moi en tant que juriste et en tant que catholique...
Qu'est-ce qu'on nous apprend en fac de droit, justement ?
Alors attends, là on parle sur
même chez les laïcs, on nous apprend...
Ah bah en fac de droit, on nous parle pas des 10 commandements.
Hein. Oui, mais on nous dit quand même, non, on nous dit quand même que le droit... est d'origine morale et que la morale vient quand même de la religion. C'est-à-dire que même dans les facs laïques, ils nous l'apprennent. En tout cas, moi, c'est l'enseignement que j'ai aussi juriste. Et
je m'en souviens plus, moi, de mes cours de fac. J'étais pas trop attentif.
Mais ça fait partie des rares moments et des rares enseignements aujourd'hui dits républicains, dans lesquels on est quand même obligé, dans l'histoire du droit, de nous dire quand même que bah, y avait quand même un lien avec les religions. Au moins, on est quand même obligé à un moment. Et ça, c'est vraiment.
Mais le lien que vous faites avec les pasteurs de cathédrale, est-ce qu'il n'est pas erroné ?
Il est de toute façon vrai. Non, pas du tout.
Mais peu importe, en fait.
Comment ?
Je vais en dire peu importe, puisque aujourd'hui, la maçonnerie spéculative n'a rien à voir avec ça.
Bien sûr.
Et ses moyens d'action et ses buts n'ont rien à voir avec ça. Voilà, l'un de ses buts, c'est le triomphe des droits de l'homme, c'est le recul toujours plus de l'Église. D'ailleurs, au nom de la laïcité, on a beaucoup attaqué le catholicisme, mais il y a eu une méga-islamisation de la France ces 30 dernières années. On les a pas entendus, les francs-maçons. Au contraire, ils ont poussé dans le sens du vent. Absolument. Donc, il y a des religions qui les dérangent, il y en a d'autres qui les dérangent pas. Enfin, plutôt, il y en a une qui les dérange.
Encore faut-il, encore une fois, savoir de quelle franc-maçonnerie on parle et.
Aucune maçonnerie n'a dénoncé les invasions migratoires dont la France était l'objet.
Mais absolument. Alors que dans les francs-maçonneries dites de droite, on en entend quand même parler.
En privé.
Et il y a une anormale discipline en faveur de la subversion de la France, basée également sur une compréhension juste des religions. On va en reparler après. En tout cas, c'est ce sur quoi nous ne serons pas d'accord, mais sur la réelle possibilité d'un non-œcuménisme dans le vrai sens et pas dans le sens dévoyé, mais c'est-à-dire les inévitables liens interculturels et intercivilisationnels sans forcément qu'on ait besoin de dégénérer en choc des civilisations. Là, ça serait la partie juste. Par contre, l'infiltration ou la massive importation de ce que Hassan II appelait justement des importés, c'est-à-dire des pseudo-musulmans qui sont plutôt des wallahs sur le Coran qui fracassent les Français, déjà, c'est déjà un autre sujet. Et par contre, en effet, est-ce qu'on a entendu des francs-maçons s'opposer massivement à ça ? Fondamentalement, que dalle. Et d'ailleurs, ça serait peut-être intéressant
que je parle d'un peu de mon arrière-plan. La société française, à l'époque, n'a pas beaucoup gueulé, à part quelques fractions du peuple français.
Oui, mais c'est parce qu'elle est tenue. En réalité, c'est le problème de la démocratie. La démocratie...
Et quand les gens veulent ouvrir leur gueule, ils l'ouvrent.
Oui, sans doute. Mais alors, dans ce cas, pourquoi ne le font-ils pas ? Moi, je pense que c'est en bonne partie par la subversion, c'est parce qu'ils sont tenus et par des moyens de terreur d'État.
Mais c'est aussi parce que leur esprit est subverti. Et donc, ils acceptent le mal et ils finissent par aimer le mal.
Bien sûr. Mais la question, c'est par qui, toujours, tout à fait. La subversion n'est pas automotrice. C'est bien le sujet. C'était le sujet de mon article de mars. Derrière les idéologues, derrière les idéologies, il y a toujours des financements anormaux. On parlait tout à l'heure de la révolution bolchevique, par exemple. Lénine, le Grand Orient n'est pas clair avec, mais Lénine est réputé avoir été initié à Cadet. Et ils ne sont pas clairs avec ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que historiquement, le Grand Orient, le GODF, est clairement une franc-maçonnerie subversive et totalement anti-française, historiquement, pour celui qui sait relier les points. Il faut se baisser pour ramasser les informations, au moins à l'époque de la Révolution, avec Philippe Égalité, on a 100 ans de subversion avant la Révolution française, et notamment au sein du Grand Orient. Mais là, il faut le comprendre aussi dans le contexte. Il y a deux choses. Il y a à la fois le contexte, sans doute, de corruption, la corruption derrière, parce que d'une façon ou d'une autre, les idéologues qui portent des idées, très souvent, elles leur sont suggérées, comme par exemple Voltaire ou d'autres. Il y a des moments où ils ont toujours des accointances, ou alors des schémas où ils ont été ruinés. Puis tout d'un coup, une bonne âme vient leur proposer de l'argent. Ouais, mais tu vas quand même nous porter un petit message, là, tu vas faire en sorte d'écrire un truc. Regarde, et t'écrirais pas un pamphlet contre le roi. Enfin, c'est comme ça que ça marche, d'une façon ou d'une autre. Mais à notre époque, c'est pareil. Nous avons aujourd'hui des cours de rattrapage, je l'ai dit récemment dans l'article de Mars et nos émissions. Pour ceux qui n'ont pas compris la subversion internationaliste dans ces 5 derniers siècles, mais vous avez des cours de rattrapage sous nos yeux. La subversion de Navalny, c'était des opérations égrenées en réalité depuis 1999 contre la Russie. Vous avez toujours les mêmes méthodes de ramollissement des États dits non coopératifs d'un point de vue du mondialisme actuel, du Bilderberg et compagnie. Et vous allez avoir au fur et à mesure des opérations grossièrement anti-russes ou bien des opérations que, oui, Poutine, la kleptocratie, vous avez la Henry Jackson Society, vous avez Navalny, vous avez Khodorkovsky, vous avez Navalny, Magnitsky, tout ce que vous voulez. Et c'est toujours de la subversion sans fin. Mais imaginez maintenant, on a vu ça depuis 1999 en Russie. Aujourd'hui, j'ai déjà dit pourquoi les Siloviki jamais ne lâcheront le pouvoir en Russie, mais imaginez ça sur 100 ans. Qu'est-ce qui vous dit que dans 30 ans, il n'y aura pas un homme d'État russe qui sera un peu moins un patriote que les autres et qui ira dire un petit peu « ouais, on ne pourrait pas leur ouvrir la porte », etc. Ça s'est passé comme ça, en fait, avant 1917 comme avant 1789. Vous avez 100 ans de subversion internationaliste dont, en effet, la franc-maçonnerie a historiquement été un vecteur, mais au sein...
Une matrice aussi, non ?
Oui, de fait, mais une matrice au-dessous d'une autre matrice, laquelle ?
Ah bah dites-moi, parce que...
De Bénébérite, par exemple, ou d'autres cénacles mondialistes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la franc-maçonnerie n'a plus vraiment son pouvoir. La franc-maçonnerie n'est qu'un vecteur, sous d'autres vecteurs. Par contre, c'est un creuset de sélection comme la Skolsen... Oui, très relatif par rapport à d'autres pouvoirs aujourd'hui.
Ce n'est pas une feuille battue par les vents.
Je ne suis pas en train de dire ça, je dis que le pouvoir est moindre qu'ailleurs, mais elle sert de vecteur en tout cas.
La maçonnerie est moins puissante, sans doute, sous la Ve République qu'elle l'était sous la Troisième, pour une raison très simple, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle la mondialisation sous la Ve République, et ne serait-ce qu'en raison de la mondialisation, il y a des réseaux internationaux qui n'ont pas existé avant. L'influence Qatar, ça ne pouvait pas exister avant.
Non, ils étaient déjà là.
Les Qataris, quand même.
Oui, mais qui a historiquement promu le wahhabisme contre les Qataris ? les mêmes mondialistes qui ont financé historiquement ce que la France était les premiers à dénoncer à faire
c'est le pas djihadisme voilà, mais maintenant, aujourd'hui, c'est le Qatar qui rachète les industries.
Oui, mais grâce à qui les grâce à Sarkozy, grâce à des trahisons internes qui ont permis au Qatar de faire des grosses magouilles.
La revanche à leur pognon aussi, quand même.
Oui, mais leur pognon ne fait pas tout. Leur pognon ne fait pas tout. Les Russes aussi avaient du pognon. Hein.
Cède.
Les Russes n'ont pas eu les mêmes facilités que le Qatar en France. Non, non, les Russes auraient pu faire la même chose que ce qu'ont fait le Qatar, mais quand il leur a fallu ne pas le refiler le Mistral, voilà. Quelle a été la différence ? Historiquement, le Qatar, comme l'Arabie Saoudite, historiquement, ont été des otages de qui ?
Oui, mais...
Des otages du jeu pétrolier anglo-américain et par certains égards d'Israël dans le contexte 11 septembre 2001, etc.
Mais l'un n'empêche pas l'autre.
Lisez Éric Laurent là-dessus. Lisez...
Ce que tu dis, l'un n'empêche pas l'autre.
Je n'ai pas dit que ça l'empêchait.
C'est-à-dire que.
C'est combiné.
Évidemment qu'il y a des influences extérieures, tout le monde subit des influences extérieures, mais pour reprendre ton mot, ils sont automoteurs aussi. Et ils auraient pu aller dans une autre direction aussi.
Ou plutôt, ils se seraient fait buter s'ils n'y étaient pas allés. Faisal s'est fait buter en 75 quand il a pas voulu.
Et d'ailleurs, Ben Salman, en ce moment, cherche plutôt à s'affranchir de ça. Hein.
Grâce à qui ?
Alors après, on verra. Hein, mais
Mais
tu sais, je vais te dire, grâce à qui, je ne sais pas ce que tu vas me dire, mais c'est en partie grâce à lui. Et c'est sans doute aussi parce qu'il y a une partie des élites...
Il se serait fait buter comme Faisal. Mais va plus loin, tu vas trouver, tu le sais.
Mais c'est sans doute... un mouvement ne peut pas émerger dans l'histoire uniquement parce que des personnes ont décidé dans le bureau. Il y a toujours une poussée anthropologique.
Absolument.
C'est pas... voilà. Bien sûr que si.
C'est anthropologique, je suis limite pas d'accord avec ça, dans le sens où je comprends ce que tu dis, mais ça n'est pas du jour au lendemain. J'entends qu'une
ça n'est pas du jour au lendemain.
Typiquement, les gilets jaunes, une poussée anthropologique de gilets jaunes face à un pétage de gueule, terreur d'État.
Tu prends un exemple très intéressant. Tu prends un exemple très intéressant. Les gilets jaunes, c'est une poussée anthropologique. Et les gilets jaunes ne sont pas le fruit de l'influence subversive.
Non, au contraire, ils sont le fruit de.
Ce sont des gens qui ont subi, comme tout le monde, le matraquage médiatique, etc., etc., etc. Mais le mouvement de Gilets jaunes en tant que tel n'était pas contrôlé par le pouvoir. Alors, il a jugulé, il l'a endormi, etc. Mais dans son émergence...
J'étais pas en train de le dire, on est d'accord.
Et d'ailleurs, les Gilets jaunes, c'est la première fois de l'histoire de France. Je parle des 5 premières semaines, je parle pas de la récupération gauchiste, il y avait rien.
Oui, il y avait pas d'idée.
C'est la première fois de l'histoire de France où le peuple français s'attaque... Enfin, première fois depuis 1789, où le peuple français s'attaque spontanément aux institutions de la Ve République. Ouais. Est-ce qu'on avait attaqué...
Ah, 6 février 34, moi, je dirais.
C'était pas spontané.
Ah, c'était pas la 5e, pardon.
Non, mais c'était pas spontané. C'est qu'il y avait des ligues, il y avait des groupes derrière.
Oui, oui, c'est vrai.
Non, alors que là, il n'y avait rien.
Ah oui, alors derrière là-dessus, les mémoires du préfet de police de l'époque parlaient aussi d'un vrai ras-le-bol populaire, indépendamment des ligues, que les deux se sont
mais
combinés.
S'il n'y avait pas le ras-le-bol populaire, mais de toute façon, si il n'y a pas le baril de poudre, la flamme ne rencontre rien.
Et le baril de boule.
Mais ceci étant posé en 34, il y a eu des convocations des différents journaux, etc. Et des ligues.
Ouais.
Voilà. Les gilets jaunes, c'est pas ça. Les gilets jaunes, il n'y a pas eu de truc.
D'accord.
Non, mais c'est important, Mike, ça, parce que ça, ça veut dire que toute la réalité n'est pas sous contrôle. Il y a des influences.
Ouais, complètement.
Il y a des influences, et on n'est pas naïf, et j'espère en dénoncer quelques-unes. Mais toute la réalité n'est pas sous contrôle, et heureusement, parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait aussi
C'est ça.
Qu'est-ce
qu'on fait
Cherche un maximum.
On va arriver sur ce point, parce que je pense qu'on va revenir sur...
Alors, je veux vraiment vite.
Non, mais après. Et je garde l'idée, parce qu'on va revenir.
Et surtout qu'on a le vaccin contre la maçonnerie qui s'appelle le catholicisme.
Bah justement, c'est la question que je voulais poser. Votre point de vue, cher Jean-Maxime, sur le catholicisme.
Alors, j'ai déjà dit que l'Église catholique a créé sa propre subversion. Et ça, c'est le méta-sujet qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que là, on parlait, en effet, du fait que la subversion n'est pas automobile.
Non, mais sur le catholisme, en tant que dogme, avant de parler d'église, en tant que institution.
Le catholisme, c'est la moitié des enseignements chrétiens. Le catholicisme a forcé l'Occident à ne se battre qu'avec un seul point face à la subversion internationaliste. Voilà mon point. Et saint Paul avait raison.
Comment ça ? Ben, précisez.
J'ai pas compris la phrase. Également.
Oui, précisez, parce que...
Le catholicisme a forcé l'Occident à ne se battre qu'avec un seul point face à la subversion.
Subversion pour vous.
On revient à la base des évangiles.
Et quel point ?
Et on revient aux actes des apôtres. Les actes des apôtres racontent quoi ? Ils racontent la persécution de saint Paul, l'épisode de la persécution de saint Paul. À l'époque, donc, saint Paul est persécuté, est un juif renégat. Saül, pourquoi me persécutes-tu ? Il va devenir chrétien, il va surtout passer d'un persécuteur de chrétiens à l'un des apôtres et à l'une des têtes pensantes les plus importantes du christianisme. Qu'est-ce qu'il se passe entre-temps ? Le vrai problème dont on parle rarement, c'est pour ça que pour moi, le sujet, par exemple, qu'on a eu un débat, il y a eu un autre débat par rapport à, c'était Federbusch contre Hillard, concernant la question sioniste ou pas sioniste, pour moi, le débat n'est même pas là. Le vrai sujet, c'est le cléricalisme. Vous lisez Isaïe, il faisait déjà le procès du cléricalisme juif, en tout cas d'une déviance cléricale au sein du clergé juif qui a donné un fanatisme par la suite, dont le christianisme a été une réforme extérieure parce qu'il était irréformable de l'intérieur. De fait, le christianisme est devenu indépendant à partir du constat que le cléricalisme juif, dans le contexte du procès qu'avait fait notamment Isaïe de ces prêtres qui confondaient les temples et les banques, on a compris que c'était irréformable, Hillel l'a payé de sa peau, il s'est fait zigouiller par les zélotes, tous les réformistes juifs, les non-fanatiques se font zigouiller par les fanatiques. Ça, c'est le drame du judaïsme, et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Mais donc, à l'époque, on en prend acte, et on se crée donc le christianisme à partir du Christ et de la révélation christique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'humanité s'égare, un sauveur lui est envoyé, d'une façon ou d'une autre. Un prophète est adombré, et là, ça serait justement Christos et Sophia, mais là, ça serait ce en quoi d'ailleurs les musulmans ont plus raison que les catholiques sur ce sujet-là. Toujours est-il que saint Paul est, en réponse de cela, persécuté par l'ancien clergé duquel il faisait nouvellement le procès, alors qu'il en faisait, il faisait partie de ses exécutants juste avant. Quelle est la réponse du cléricalisme fanatique juif? C'est de persécuter saint Paul, et surtout par une logique d'agit-prop, c'est-à-dire de tenter d'activer l'Empire romain contre saint Paul en créant des troubles artificiels.
Et votre loge par rapport au Christ?
Là, il me faut d'abord terminer de répondre à ça, parce que c'est important. Lorsque saint Paul,
mais là, on s'égare un peu quand même.
Non, mais saint Paul fait appel au droit romain, et il excite de sa qualité de citoyen romain pour vaincre de fait la subversion de cette époque-là. C'est-à-dire que l'agitation propagandaire d'une part et la volonté antichrétienne, elle est déjà caractérisée dans les actes des apôtres. Par contre, à l'époque, il y a le droit romain qui protège saint Paul.
Okay.
Et surtout, donc, militairement,
saint Paul est protégé. Mais Dieu aussi protège saint Paul.
Bien sûr,
surtout.
Mais Dieu a besoin de
l'agitation. Mais votre avis en tant que membre...
les hommes d'armes...
votre avis en tant que membre d'une loge face au Christ, au catholicisme, est-ce que, pour vous, la France, c'est pas le baptême de Glovis par Saint-Rémy? Voilà, c'est une question simple.
Alors, c'est une question très intéressante.
Et du coup, je veux pas qu'on dévie sur des choses, parce que j'ai l'impression que là, on est en train de dévier.
Alors, voilà. Il faut que soyons. À répondre en 45 secondes et seulement après à développer.
Allez-y.
Non, mais c'est important, pour l'exercice médiatique. Quelle est la question exacte, donc? Précise et concrète.
Donc, votre avis...
Comment ta loge se positionne par rapport au
votre avis sur le Christ, sur le catholicisme...
Et surtout, quelle vision de la France elle a?
Voilà.
Est-ce qu'il faut continuer la France, mais la France éternelle, la vraie France, celle de Charles Martel que tu évoquais tout à l'heure notamment, ou est-ce que on devient la patrie des droits de l'homme? Parce que c'est ça la vraie question.
C'est exactement le problème, et les francs-maçons ne sont pas clairs là-dessus, parce que tout simplement, la franc-maçonnerie est une institution.
Mais vous, je ne veux pas que vous dites votre avis à vous, parce que je ne sais pas votre avis.
La vie de
mon VM ou mon colonel, c'est la même chose, se signe en entrant dans la loge. C'est un chrétien orthodoxe, et je suis moi-même plus proche de l'orthodoxie que du catholicisme.
On en guérit
de
l'orthodoxie.
Là, nous parlons comment?
On en guérit de l'orthodoxie.
Il va falloir qu'on parle de Sophia quand même. Le problème étant qu'en effet, les francs-maçons ne sont pas clairs là-dessus. Mais moi, ayant une véritable conscience de l'histoire de France, je sais que le christianisme a façonné la France et que s'il y a de la subversion antichrétienne au sein de la franc-maçonnerie, c'est 1. Une réalité. 2. Les francs-maçons ne sont pas forcément clairs avec ça. 3. Parce qu'on leur fait prendre des vessies pour des lanternes. 4. C'est un vrai problème. Voilà pour ma
quel
réponse.
Type de vessies
Globalement, on nous fait prendre le merveilleux humanisme pour... vous lisez les ouvrages de Adrien Abosy, en fait, il a tout dit dedans. On nous fait confondre le véritable humanisme chrétien avec un humanisme droit de l'homiste contrefait, qui est en réalité un fanatisme déguisé qui a pour but en réalité de subvertir la France. Voilà le sujet.
Adrien,
il y a un mot que tu emploies très souvent, c'est le mot subversion, qui est un mot fondamental. C'est quoi la subversion depuis 200 ans? Qu'est-ce que c'est la subversion qu'on vit depuis 200 ans? Un peu plus de 200 ans maintenant. La subversion que nous vivons depuis 200 ans, c'est justement le recul de l'Église, et c'est le recul justement du respect des 10 commandements, de la loi naturelle, etc. Et le monde est subverti quand progresse ce qui va à l'encontre de la doctrine de l'Église. Voilà. Concrètement, aujourd'hui, le wokisme, le mouvement LGBT, etc. etc. Bon, sur les considérations de Jean-Maxime spirituelles, vous devinez que je ne les partage pas, mais ça, on le savait déjà. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que aujourd'hui, l'Église catholique est éclipsée par le modernisme, par ce que j'appelle la secte conciliaire. Si ce n'était pas le cas, nous aurions sur Terre 1,5 milliard de personnes, vent debout, combattant contre le progressisme, le wokisme, toutes les dérives LGBT, contre l'avortement, etc., etc., etc. Le catholicisme, c'est le seul antidote, le vrai catholicisme, je ne parle pas du modernisme Vatican II, je parle du vrai catholicisme, c'est le seul antidote contre la subversion et je dis que le catholicisme, mon cher Mike, c'est l'avenir de la France. Le catholicisme, c'est le passé de la France. C'est pas beaucoup son présent, on va pas se mentir, parce que les Français ont massivement apostasié. Ils avaient beaucoup apostasié avant Vatican II, et Vatican II a beaucoup mis pas le coup de grâce, parce qu'on a encore quelques milliers en France. Mais voilà. Mais le catholicisme, c'est l'avenir de la France contre cette subversion qui détruit la société. La maçonnerie n'est pas la seule à la porter. Les mouvements LGBT sont pas principalement poussés, me semble-t-il, par les loges. C'est une autre catégorie de la population. L'un n'empêche pas l'autre.
Mais est-ce que vous comprenez, voilà, lorsque Jean-Maxime dit oui, en effet, les loges sont subversives.
Et elles sont subversives.
Mais après, d'ailleurs, je comprends pas. Parce que,
elles sont subversives parce qu'elles poussent.
Jean-Maxime parle de subversion des loges, mais je comprends pas.
Je vais raconter une anecdote.
Il en fait partie. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs.
On va y venir. Je peux rebondir exactement là-dessus.
Pardon. Non, j'ai une anecdote. Je sors du métro. J'étais dans le 8e arrondissement. Je sors du métro. Et il y a une petite main qui me tape dans le dos comme ça là. Elle me dit, monsieur Abosi, oui, c'est moi, tatata. Et le type dit, ah bah je pense comme vous. On pense tout pareil. On pense tout pareil.
Mais il votait.
Et non, c'est pas qu'il vote. C'est qu'il me dit qu'il est à la GLNF. Et il me dit, ah mais vous savez, moi aussi je suis monarchiste. Je connais des gens en prieuré de Sion et tout ça, machin truc, je sais pas quoi. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on met derrière les mots. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on met derrière les mots. C'est que je suis pas convaincu que les gens du prieuré de Sion qui veulent la monarchie, ils veulent la même que la mienne.
Mais est-ce que ça signifie que en fait
ça signifie qu'ils sont l'esprit totalement perdu et qu'ils ont des référentiels totalement erronés.
Est-ce que ça signifie pas que j'ai l'impression que Jean-Maxime, sur ce qu'il nous dit, il est franc-maçon pour des intérêts professionnels, en fait, sans croire à la doctrine franc-maçon.
Faut lui demander. Moi, je veux pas parler à sa place.
Moi, c'est l'impression que j'ai. Enfin,
En tout cas,
attention à ce que tu vas dire.
Non, mais en tout cas, j'observe que Jean-Maxime, déjà, a l'honnêteté intellectuelle de reconnaître un grand nombre de méfaits de la franc-maçonnerie. Donc, déjà, ça, c'est une bonne chose. C'est intellectuellement honnête de sa part. C'est vrai que je comprends pas ce que tu fais là-dedans, ayant conscience de tout le mal qui a été fait. Et qui
c'est parce que c'est dual, parce que ça a toujours été dual, et c'est le vrai sujet. Par contre, en tant que catholique,
comment ça dual, comment ça
rigoriste, il y a un moment, on va pas être d'accord, parce que quand je dis que l'Église catholique a créé sa propre subversion, c'est le problème. Qu'est-ce qui se passe à la fin de Louis XIV? La grandeur de la France, est-ce que c'est totalement uniquement catholique? Si vous allez à Versailles, qu'est-ce qu'on voit? On voit un retour au pur paganisme antique.
Mais c'est le début de la fin.
Et à la fin, où justement, défaite après défaite, il est revenu au catholicisme. Sauf qu'il me semble que le catholicisme, pour autant, je suis totalement d'accord qu'il manque le Sacré-Cœur sur le drapeau français pour des raisons absolument historiques. Nous avons été avertis 100 ans avant la Révolution française de la Révolution française et il aurait fallu mettre le Sacré-Cœur sur le drapeau français, le drapeau à l'époque royal. Tout à fait, c'est une drôle de prophétie, ça, d'ailleurs, dans ce contexte-là. Je suis intimement convaincu qu'il y a une mystique dans la destinée des nations et d'ailleurs à côté de chez moi à Tours il y a la Vierge de l'île Bouchard en 47 quand la France était à deux doigts de passer communiste et Marthe Robin, mystique chrétienne, avait dit
c'est une fausse mystique hein.
Bah tu me raconteras toujours est-il que moi je veux,
c'est une mythomane absolue Marthe Robin,
sans doute mais dans ce cas on peut aussi reparler de Jeanne d'Arc. Dans ce cas Jeanne d'Arc savait un peu mieux ce qu'elle faisait que ce qu'on en a dit, et Jeanne d'Arc derrière Jeanne d'Arc c'était le mouvement celtique, c'était les franciscains.
Jeanne d'Arc est une sainte de l'Église catholique, Marthe Robin est une mythomane, ça n'a rien à voir,
bien sûr. C'était aussi la sœur du roi, ça serait un autre sujet.
Ouais, alors non, sujet, je suis pas sûr, ça.
Il y a des choses c'est-à-dire importantes derrière Jeanne d'Arc.
C'est-à-dire que le catholicisme romain a dévié à partir de l'Ancien Régime?
Non, dès les 4 premiers siècles de la création de la chrétienté.
Non, il n'a jamais dévié, cher ami.
Il n'a jamais été complet, en fait, dès le début de la
chrétienté. Si, il était complet.
Ça va être mon tour de parler quand même. Dès les 4 premiers siècles de la chrétienté, mais vous allez me laisser parler, oui. On a la moitié des enseignements chrétiens qui sont oubliés. J'ai déjà parlé, par exemple, devant Alain Pascal. Alain Pascal qui, par ailleurs, a fait un excellent ouvrage sur la subversion de la franc-maçonnerie. Sur la
il fait des très bons livres, Alain, on peut faire sa pub et le saluer au passage.
Oui, voilà. Qu'on le salue. Et,
Mais
il y a des choses... Le dernier livre d'Alain Pascal.
Mais non. Avec le... Ah,
j'ai pas compris la phrase.
Le dernier livre d'Alain Pascal, peut-être pour
c'est sur la maçonnerie, mais Alain fait un très bon livre sur la maçonnerie qui s'appelle Le siècle des ténèbres, et je vous le recommande.
Et la trahison des initiés qui est vraiment pertinente.
Mais Le siècle des ténèbres, me semble-t-il, il est un cran au-dessus. Mais c'est ma subjectivité à moi qui dis.
C'est toi qui sais, je l'ai pas lu là pour le coup. Donc simplement, dès le début, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dès le début, l'Église catholique, et encore aujourd'hui, a des conceptions fausses ou seulement partielles de certaines choses. Elle a prétendu gommer et faire une guerre absolument terrible contre le paganisme, notamment celtique en France par exemple. En réalité, on a oublié la moitié de ce qui fait la vie. Par exemple, demander à un catholique l'origine de la souffrance. Dans le monde, demander à un catholique l'origine de certains phénomènes médiumniques, qui vont vous dire d'une façon ou d'une autre que c'est l'œuvre de...
Les médiums, ça vient pas du ciel. Hein.
Et donc c'est nécessairement l'œuvre de Satan.
Ah bah oui.
C'est-à-dire que Alors, parce si que moi, j'ai des gens aussi qui ne comprennent pas. Donc, je dois aussi.
Alors, il faut suivre aussi ce que
attendez,
je dis. Je
attendez, pense que... ça veut dire que ce que vous dites, c'est que vous, en fait, vous vous sentez comme une sorte de chrétien originel par rapport à l'Église romaine.
C'est le vrai sens de la gnose initiale.
Donc, c'est ça.
Oh non.
Tel que non dévoyé. Non, mais là, c'est les catholiques.
Je n'ai pas vu venir celle-là, j'avoue.
Les catholiques ne comprennent pas du tout ce qu'est la gnose. Pour résumer en deux points, la gnose, c'est quoi?
C'est vrai que c'est la doctrine de la maçonnerie, donc de ce point de vue-là, tu es cohérent.
Non, la franc-maçonnerie est une conséquence. La gnose est la cause, mais la vraie, pas du tout celle subvertie. D'ailleurs, quand les catholiques parlent de la gnose ou quand Francis Cousin parle de la gnose, moi je nage. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas la gnose. Par contre, la gnose, c'est bien plus simple que ça. Gnose, gnosis, la connaissance, c'est pas forcément ce qu'on en dit. Mais bon, anyway. La gnose, en tout cas, la gnose pour les nuls en deux points, le non-monopole du clergé sur le salut des âmes. Déjà, là, l'Église catholique ne sera bien sûr pas d'accord, et pourtant, c'est un sujet majeur. Le deuxième sujet, c'est bien sûr l'origine égyptienne du christianisme. Ça veut dire l'origine païenne. Mais si je vous pose après la question de savoir d'où vient la tière du pape...
Je comprends que tu es franc-maçon, là.
Là, il est en train de... Là, il envoie des scuds. Hein.
Ne confond pas la cause et la conséquence. La franc-maçonnerie opérative a été la conséquence de ça.
Non, mais ça, tu ne l'as pas appris dans les livres.
Ah, je ne l'ai pas appris chez la franc-maçonnerie non plus.
Bah, tu l'as appris où?
Ah, si, bien sûr.
Qui te raconte que le catholicisme vient de l'Égypte, cher ami? Enfin, ça vient d'où, ça?
Christiane Desroches-Noblecourt, par exemple.
On a le pas catholicisme, il vient du ciel.
On a des...
C'est la religion qui est enseignée par le bon Dieu.
Bien sûr, mais il y a aussi des allégories. Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre.
Ah, mais je prends au pied de la lettre
le fait que... De véritables érudits juifs te prendraient pour un idiot de chrétien en disant qu'ils prennent tout au pied de la lettre.
Mais ils ont le droit de se tromper. Ils ont le droit de se tromper.
Pour eux, tu as le droit aussi de te tromper.
Oui, mais moi, je ne me trompe pas quand je dis que le catholicisme est la religion révélée. Parce que c'est la vérité. Et le catholicisme, c'est la vérité.
Et un juif te dira frontalement l'inverse, que tu te trompes, mais on peut faire un match sans fond là-dessus.
Un musulman, un bouddhiste dira que j'ai tort d'être catholique. Et moi, je leur assure, c'est eux qui ont tort.
Sans doute.
Et moi, en tant que catholique, je leur dis que le catholicisme, c'est la vérité, que l'Église catholique enseigne la vérité. L'Église ne se trompe pas, elle est infaillible en matière de foi et de mœurs, et elle est pleinement détentrice. Justement, eh bien, de la foi, et c'est elle qui interprète les Écritures infailliblement. Elle a un magistère infaillible, et voilà, elle a une pleine possession de la vérité, si je puis dire.
Je réponds postulat, postulat et postulat.
Je réponds acte de foi.
Certes.
Acte de foi.
Mais la foi sans la connaissance, c'est dès lors qu'on recherche la connaissance dans le contexte catholique, on est orgueilleux ou on est un vilain.
Non, c'est pas vrai.
C'est-à-dire que tu serais un des apôtres du Christ.
Non. Je vais me te dire une chose, c'est l'inverse. Mais... Ce sont les non-catholiques qui considèrent que le simple fait de dire « j'ai raison parce que j'ai la vérité », c'est un acte d'orgueil. On assimile l'orgueil à le fait de dire « j'ai la vérité ». Ben non, quand on est catholique et quand on récite, quand on répète l'enseignement de l'Église, on dit la vérité. Mmh, c'est pas de l'orgueil, c'est comme ça.
L'Église catholique ne s'est-elle jamais trompée dans son histoire?
Jamais. En matière de foi et de mœurs.
D'accord.
En matière de foi et de mœurs, l'Église ne s'est jamais trompée.
En matière de foi et de mœurs.
Oui.
Dans son ouais, c'est quand ça se trompe.
Si je parle des Borgia, ça compte ou ça compte pas?
Mais les Borgia n'ont jamais professé le faux en matière de foi et de mœurs. Tu peux trouver sans doute.
Ils étaient juste pas très honorables, mais sinon dans leurs mots, ça allait, quoi. C'est ça.
Non, mais déjà petite parenthèse, le pape en question qu'on met en cause, c'est Alexandre VI. Alexandre VI a sans doute commis des péchés. Une grande partie des péchés qu'on lui reproche sont totalement inventés. Ouais. Il y a un de ses détracteurs qui s'appelle... c'était un Allemand, je ne sais plus, mais pour donner un exemple très simple, c'est qu'il prétendait tenir un journal quotidiennement, et il dit « j'ai assisté à une orgie dans les locaux du Vatican ».
Je m'étonnerais pas.
Or, le jour J, il était en Alsace, vous voyez.
Ça m'étonne absolument
donc,
pas.
Donc, une grande partie des de ce qu'on dit sur Alexandre VI, et je ne dis pas qu'il a fait tout parfait, etc., mais je dis qu'une, d'un point de vue moral, une grande partie de ce qu'on lui reproche, c'est de la calomnie pure et simple, et le diable est le père du mensonge.
Ouais, voilà. Ça m'étonne pas, de même qu'aujourd'hui, quand on parle de la pédocriminalité dans l'Église...
Dans le secte conciliaire, oui.
C'est un épiphénomène... Mais... J'ai mis autre expression. C'est un épiphénomène comparé à la pédophilie, pédocriminalité extérieure à l'Église. Mais pourtant, on ne va parler que de celle-là pour dire « Ah là là, mais on ne va pas s'intéresser quand ça se passe dans d'autres religions, par exemple. » Ça, c'est un autre sujet. Je suspecte en effet qu'il y ait ce genre de phénomène subversif, ça ne m'étonnerait absolument pas. Au passage, définition subversion du latin subvertere, renverser un ordre établi. La subversion, c'est ce qui escompte renverser un ordre établi.
Et c'est l'ordre chrétien, justement, que la maçonnerie a cherché.
Pas chrétien, catholique.
Oui, mais... catholique, mais
c'est pas synonyme, parce que dans sa bouche à lui, chrétien, catholique, c'est pas la même chose.
Bien sûr.
Lui, visiblement, se définit comme un chrétien originel, c'est-à-dire des préceptes du Christ.
Seuls les catholiques sont chrétiens. Quand on dit, par exemple, que les schismatiques orientaux, par exemple, sont chrétiens, c'est à tort qu'on le dit. Quand on dit que les protestants sont chrétiens, c'est à tort qu'on le dit. C'est ce sont des sectes qui ont apparu au fil des siècles. Mais à partir du moment où on rompt...
L'orthodoxe, c'est une scission.
Oui, mais c'est une secte.
Après l'Empire romain, peut-être pour des questions géographiques.
En 1054, il y a plusieurs critères qu'on pesait. Donc en 1054, il y a ce qu'on appelle le schisme. Et par la suite, c'est ajouté l'hérésie, parce qu'ils professent aussi l'hérésie. Ils nient le filioque, etc. Sur le mariage, ils ne sont pas tout à fait clairs, etc. Bon, ouais. Mais voilà, donc...
C'est une hérésie d'un point de vue catholique. Rien qu'à expliquer ça aux orthodoxes, c'est déjà foutu, en fait. La chrétienté est déjà divisée. Mais la question, c'est qui, eux, éventuellement...
Les orthodoxes ont mangé leur chapeau au concile de Florence quand ils se sont ralliés au catholicisme parce qu'ils avaient peur des Turcs. Et ils l'avaient fait précédemment au concile de Lyon. Donc les orthodoxes, ils ont une acceptation des vérités à géométrie variable.
C'était en quelle année ?
Ça, c'était vers 1430 et quelques, je ne sais pas la date exacte. Enfin, c'était,
Et à la bataille de Koulikovo, ils ne l'ont pas fait.
Alors, je ne connais pas la bataille de...
Où ils l'ont fait ou ils ne l'ont pas fait, justement. Mais au final, ils ne l'ont pas fait.
Mais les orthodoxes ont mangé leur chapeau plusieurs fois et ont
ils ont aussi plusieurs fois envoyé chez les catholiques aussi. Il y a eu, je pense, match, en tout
et
cas.
Et ils l'ont payé parce qu'ils ont été châtiés par l'invasion islamique.
Point, l'Empire des Khazars a été pris en tenaille par les Varegs récupérant, commandant les Slaves pour fonder la Rosse de Kiev. Et de l'autre côté, les Khazars se faisaient défoncer la gueule par qui ? Par les musulmans. Il y a eu une alliance informelle à cette époque qui est connue.
Ça, c'est encore autre chose.
Mais, c'est sans doute discutable, mais en réalité, le vrai sujet serait plutôt qu'il y a des ponts entre l'ésotérisme égypto-sumérien, puis ses prolongations plus tard, et l'ésotérisme celtique et nordique. Là, c'est encore un autre sujet, mais ce sont
alors,
les catholiques
on va passer
dans cette équation
à la deuxième partie,
notamment à partir du dogme de l'enfer, qui est une pure invention catholique, mais qui a justifié la fonction
d'accord.
du clergé. Et là, par exemple, c'est l'une des plus grosses erreurs du catholicisme. Comme
merci, cher Jean-Maxime. On va passer à la deuxième partie, mais avant ça, les petites
Il n'y a pas d'erreur dans le catholicisme. Je voulais juste le dire.
Vous, les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça.
Effectivement, pour nous, la liberté d'expression, c'est important. Et on sait que pour vous aussi. Alors faites un don à GPTV.
Je vis de quoi ? Des droits d'auteur de mon livre. C'est tout.
Moi, je pense pas.
Rendez-vous sous la vidéo pour soutenir l'information libre.
Tu vas payer pour ton insolence.
Merci à vous d'être si nombreux pour ce grand débat interdit. Continuez à nous soutenir avec le Tipeee Stream. Voilà, vous voyez, c'est entouré. Vous cliquez dessus. Cette émission, elle est faite pour vous. Et donc, si vous nous soutenez, on continuera justement à être de plus en plus présent avec ce type d'émission que vous ne trouverez évidemment nulle part, en tout cas pas sur les médias subventionnés. Alors là, on est sur cette fameuse deuxième partie. Voilà, que notre ami régisseur nous montre cette deuxième partie, voilà, franc-maçonnerie contre l'Église, ou bien fait, mais d'après ce que je comprends dorénavant, oui, elle est contre l'Église catholique, parce que notre ami Jean-Maxime différencie visiblement le catholicisme et la chrétienté, d'après lui, oui. originelle. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, cher Adrien Abosi ? Est-ce qu'il y a cette différenciation ?
Le catholicisme,
ou est-ce que le catholicisme, c'est totalement je veux dire,
le catholicisme, c'est la vraie religion. C'est la religion qui a été enseignée par le Christ aux apôtres. C'est la vraie religion, c'est la continuité de ce qu'on appelle le mosaïsme sur l'Ancien Testament. C'est la vraie religion. Après, au fil des siècles, hélas, eh bien, il y a des renégats, il y a des branches de l'arbre, je dirais, qui se sont coupées et qui ont fondé des sectes. Donc, on a évoqué les orthodoxes, les protestants, etc., les jansénistes, les modernistes, qui sont les pires ennemis de l'Église. Hein, je le cite le pape Saint Pie X. Hein.
Oui, mais Jean-Maxime, lui, se définit visiblement comme chrétien.
Ah oui, mais moi,
donc,
ce que je pose,
donc,
pas seulement à Jean-Maxime...
Il n'est pas dans une forme de contre...
Alors, ça m'appelle...
Contre-religion, si je puis dire.
Bah non, mais Jean-Maxime n'adhère pas à la vraie religion. Jean-Maxime n'adhère pas à la vraie religion. Mais, cher ami, il n'est jamais trop tard.
C'est vrai, c'est vrai.
Il n'est jamais trop tard. Et moi-même qui suis à converti...
Non, mais pourquoi je dis ça ?
Tu sais que j'ai fait des vagues il y a quelques temps.
Pourquoi je dis ça ? Parce que souvent, on dit que la franc-maçonnerie... et contre la religion, contre un cléricalisme.
Ils sont contre la vraie religion.
Mais ils sont pas
parce
contre
que les
le
autres religions sont fausses. Ils sont anticléricaux. Il y a le célèbre mot de Gambetta, le cléricalisme, voilà l'ennemi, Gambetta qui était franc-maçon d'ailleurs. En fait, c'est le catholicisme pour eux qui était l'ennemi. Ils n'osaient pas
le reste. C'est pas le protestantisme, l'orthodoxie, l'islam...
Qu'est-ce qu'ils ont fait contre ces religions ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Écoutez, vous prenez le nombre de mosquées en France qui a explosé depuis des décennies, d'accord ?
Oui, mais ça, c'est la République. Est-ce que c'est aussi les francs-maçons ?
Bah, y a quand même un petit lien de causalité, quand même. Excusez-moi. À un moment, ils font partie des institutions. Est-ce qu'ils ont travaillé les esprits pour limiter concrètement le nombre de mosquées en France ? Non. Non. Est-ce qu'ils ont travaillé les esprits pour que les Français quittent l'Église ? La réponse est oui. Alors, ceci étant posé, attention, les Français ont leur libre arbitre. Et certes, il y a des tentateurs, certes, il y a des coupables, certes, il y a des ennemis, mais à la fin, c'est notre libre arbitre. Et c'est le choix des individus, malheureusement, d'apostasie. C'est pour ça que je dis, nous payons notre infidélité à l'Église. Les Français payent le fait d'avoir rejeté la vraie religion. Voilà.
Merci, cher Adrien Bozzi. Donc, est-ce que, cher Jean-Maxime, vos loges ont permis la résurgence de l'islam ?
On va essayer d'impliquer trois sujets. Premièrement, l'empirisme. Deuxièmement, l'idée que rien n'est monolithique. Quand on dit les francs-maçons, il y a à boire et à manger là-dedans. C'est comme...
J'ai parlé des loges.
Oui, mais justement, mais c'est important. Adrien a parlé des francs-maçons. En réalité, il y a à boire et à manger. Et d'ailleurs, ne surestimez pas les francs-maçons. Beaucoup sont limités en termes de véritables connaissances. Et quant aux connaissances ésotériques, j'en parle même pas, quoi. De grands Elias
C'est pas leur connaissance que je crois.
Ou alors Guénon. Bien sûr, non, mais justement, leur naïveté...
C'est leur influence que je crois.
Oui, bien sûr, mais justement, mais il faut parfois... C'est ce que disait Jacques Bergier. Dans tous les mouvements subversifs, on agrège aussi des imbéciles, en fait. C'est la phrase de Jacques Bergier était marrante là-dessus. Et surtout, qu'est-ce que disait le renseignement militaire vichyste en 1943 ? Hitler était le grand provocateur dont les loges avaient besoin. Pourquoi ? Pour achever ce qui n'avait pas pu être fait devant Varsovie en 1920, à savoir la conquête de toute l'Europe par le bolchevisme en tant que futur soviétisme privatisé, futur mondialisme, etc. En ce sens, il parlait du fait que derrière les loges, il y avait toujours des idéalistes qui étaient poussés devant, ou des idéalistes, ou des gens qui naïvement croyaient vraiment faire de l'ésotérisme, étaient vraiment en quête de connaissances qui, en réalité, et là c'est le gros problème, ont été largement confisquées par l'Église. Mais là, on se rapprocherait du sujet, en fait, parce qu'on ne peut subvertir que ce qui est subvertissable. En tout cas, on peut mieux subvertir.
Je suis d'accord avec ça.
Subvertissable. En ce sens, oui, les Français sont responsables, mais l'Église catholique a une énorme responsabilité dans ce qui a été la subversion du monde catholique, et ne serait-ce que la réforme. Luther, initialement, avait raison. Luther et l'idée que le clergé abuse par certains gars... Non, mais ça dépend sur quel sujet. Mais je ne dis pas qu'il avait raison sur tout, mais lui-même a été d'ailleurs coopté pour faire la subversion antichrétienne, puis après il s'est retourné contre qui d'ailleurs ? Il ne s'est pas retourné contre les musulmans, il ne s'est pas non plus retourné contre les chrétiens.
Tu as raison qu'il n'a pas... Il y avait des poussées turques à l'Est, et effectivement, les protestants, à ma connaissance, ils n'ont pas essayé de combattre les Turcs.
Mais Luther, lui, s'est opposé à qui ?
Que le roi de France non plus.
Luther était extrêmement antisémite, effectivement.
Pas au début. Au début, il a pensé à faire ami-ami avec, justement, les ni chrétiens ni musulmans, n'est-ce pas ? On les appellera les Moldovalaques.
Les juifs talmudiques,
tout à fait. Et lorsqu'il s'est aperçu plus tard que ces gens n'étaient pas ses alliés contre le pape, mais ils étaient ses alliés à condition qu'ils charge la chrétienté et non plus uniquement le pape, on a déjà en modèle réduit ce qui s'est passé avec la franc-maçonnerie. Après, je répète, la franc-maçonnerie, comme Luther, était anti-papale et s'est fait déborder par un anti-christianisme qui s'est servi d'une part de Luther. Luther en a pris conscience et s'est retourné ensuite contre eux, mais la franc-maçonnerie n'en a pas pris conscience et en effet est devenue subversive non plus uniquement contre le pape, mais contre l'intégralité, un, de la chrétienté, deux, de la royauté. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce que feu Stéphane Blais disait, mais surtout ce qu'à peu près tout le monde, les vrais initiés qui comprennent le sujet, disent. Le RE2A, rite écossais ancien et accepté en réalité, a été artificiellement constitué et est le rite aujourd'hui le plus fréquent aujourd'hui dans la maçonnerie française, par exemple, par opposition notamment au rite français, rite notamment des loges militaires, et au rite écossais rectifié, qui est un rite beaucoup plus christique, beaucoup plus dans l'ambiance des
anciens Christique avec des grosses guillemets, hein.
Oui, laisse-moi la paternité de Nemo là-dessus, en fait, parce qu'en réalité, Christos et Sophia, il est plus du côté de l'orthodoxie ou des véritables chrétiens gnostiques que des catholicistes. Si tu commences à me gratouiller là-dessus,
Je te gratouille pas, parce que je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire.
On va venir juste après au vrai sujet, mais là, je voudrais d'abord venir au fait qu'avant la Révolution française, il y a eu deux choses. Il y a eu le couvent de Wilhelmsbad en 1782, qui a vu une opposition entre deux francs-maçonneries opposées. Une franc-maçonnerie spiritualiste, la franc-maçonnerie honnête qui est tentée de revenir à certains héritages antérieurs ou pré-catholiques, en tout cas jalousement conservés par l'Église catholique dans les sous-sols du Vatican, mais pas trop à portée du bon peuple ou des notables. Et ces gens-là pensaient honnêtement progresser en connaissance dans le contexte d'un siècle qui était, on va dire, dans l'étude des belles-lettres, dans les Bildungsreisen, dans les voyages éducatifs en Italie, etc. On retrouvait certains aspects du paganisme, des connaissances platoniciennes, pythagoriciennes, etc. Donc, une franc-maçonnerie spiritualiste honnête, et de l'autre côté, une franc-maçonnerie illuministe qui n'avait rien à voir avec la première.
Donc voilà, il y a deux franc-maçonneries.
De Wilhelmsbad, première étape, donc on est avant la Révolution française, de même que le comte de Saint-Germain avertit, Marie-Antoinette avertit, qu'il y a une grosse subversion qui se prépare contre la France et ce n'est pas normal. À la même époque, Adam Weishaupt se fait frapper par la foudre, intervention divine, pour qu'on voit quand même qu'il y a des bizarreries qui se passent.
Mais d'où viennent ces deux francs-maçonneries?
Et dernière chose,
de l'enfer.
Mais c'est une réalité qu'il y en a deux comme ça.
Qui n'existe pas, il est vide, les démons sont ici. Mais c'est un autre sujet. Attends, je termine juste sur ce point. Parce qu'il y a un deuxième point.
Tu nies l'enfer.
On va revenir juste après. Le Code de Lyon des loges réunies et rectifiées des Gaules en 1778, qui étaient les véritables francs-maçons du RER, donc dans une ambiance néo-templière, etc., mais honnête à l'époque, spiritualiste, avertit que le grade, la création artificielle, notamment le terrible grade, le 30e du chevalier Kadosh, était complètement frontalement opposé au pape et à la royauté.
Ça le mérite d'être clair.
Absolument clair.
Ça le mérite d'être clair.
Ce qu'on dit, c'est que la moitié de la franc-maçonnerie, c'est la véritable,
pourquoi c'est
opposée
clair
à la fausse franc-maçonnerie.
Il s'oppose au pape, il s'oppose aux représentants de Dieu sur Terre.
Il s'oppose à François, alors.
Non, Bergoglio n'est pas pape. Personne ne peut le savoir.
Mais non, mais c'est vrai.
Pas seulement de ne pas le savoir.
C'est vrai. Et en ce sens, mais développe.
Bergoglio n'est pas le pape. Tous les pseudo-pontifs conciliaires depuis Jean XXIII ne sont pas des papes catholiques puisqu'ils ne professent pas la doctrine catholique.
Donc il s'oppose à qui alors ?
Le pape est infaillible en matière de foi de mœurs quand il enseigne. Jamais dans l'histoire de l'Église, il y a eu de contradiction dans l'enseignement. Bon, on peut ne pas être d'accord, hélas, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec l'enseignement de l'Église, mais il n'y a jamais eu de contradiction. À partir de Jean XXIII, du pseudo Jean XXIII, Roncalli le Félon, il y a des hérésies qu'on retrouve dans l'enseignement de ce qui aurait dû être l'Église. Donc ces gens-là ne sont pas papes et ils ne sont pas l'Église. Et la finalité de ça, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, la secte moderniste bénit l'homosexualité. Or, l'homosexualité a toujours été condamnée par... Enfin, la pratique de l'homosexualité a toujours été condamnée.
À qui ils s'opposent ?
Ils ne s'opposent pas. Ils sont dans le sens du...
Non, je parle de Jean-Maxime.
Ah bah ça, les francs-maçons, le 30e degré Kadosh s'opposait au vrai pape de Saint-Pierre, je dirais, à Pie XII, vous voyez ?
C'est-à-dire qu'il s'oppose au Christ, alors ?
À la chrétienté avant tout, et non pas uniquement au pape.
Non mais est-ce qu'il s'oppose au Christ ?
Bah évidemment, quand on s'attaque au pape, on s'attaque au Christ, mon cher mec.
C'est un postulat.
Quand on est catholique, c'est la vérité.
Voilà.
Mais on peut pas reprocher à un catholique de professer la foi catholique.
Bien sûr, mais après, d'où vient le problème de la foi catholique ?
Mais il n'y a pas de problème de la foi catholique.
En quoi a-t-elle été facilement subvertissable ?
Elle n'est pas subvertie, la foi catholique.
Ah, je vais donner un début.
Pourquoi elle n'est pas subvertie ? Attendez, parce qu'il est quand même en retard au niveau
Parce que la foi catholique, c'est la vérité. Elle n'est pas subvertie. Elle n'est pas subvertissable, excusez-moi, je cherche le mot français. Il n'y a pas de subversion dans la foi catholique. La foi catholique, c'est la vérité. La foi catholique, c'est l'antidote, je vous l'ai déjà dit, à la subversion. Et pourquoi on en est où on est aujourd'hui ?
Elle n'est pas infiltrée, donc, aujourd'hui.
Pardon ?
L'Église catholique n'est pas aujourd'hui infiltrée. Tu viens de me dire qu'elle n'est pas subvertissable.
C'est la secte moderniste. Elle n'est pas seulement infiltrée, la secte moderniste.
Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que...
Elle est l'infiltration. Elle est la subversion, la secte moderniste.
Donc, elle était subvertissable.
Et elle est l'usurpation.
Certes, mais ça veut donc dire qu'elle était subvertissable avant d'être subvertie.
On parle de structure humaine. C'est ça, c'est le son de structure.
C'est le problème dont on parlait tout à l'heure en matière politique.
L'Église instituée par Jésus-Christ,
bien sûr,
par définition, n'est pas subvertissable parce qu'elle y a une constitution divine de l'Église qui la protège.
C'est un
elle
postulat.
Est infaillible, ouais. Elle est indéfectible. C'est pas un postulat.
C'est
la foi qu'elle.
Non, mais c'est intenable par rapport au fait que des humains sont des humains. Par contre, là, on arriverait.
Mais c'est intenable parce que justement, nous avons des protections divines.
Oui, et par contre, quand Notre-Dame brûle, il y a peut-être justement une idée de brûler un bris de sceau de protection de la France, justement.
Ça, je ne sais pas, mais en tout état de cause...
Mais là, nous parlerions déjà de théurgie, qui est confisquée par qui ?
J'ai pas compris la question.
Mais là, nous parlerions déjà de théurgie, qui est confisquée par qui ?
Alors, c'est quoi la thé ?
La magie blanche, la haute magie blanche.
Ah, je ne connais pas le dossier,
Ça serait
a priori, c'est à la poubelle, la magie blanche et la magie noire.
Pas du tout, en fait. Ah, bah attends, le pape ne s'en est jamais servi. Il n'y a aucun pape qui a fait de la nécromancie.
Il n'y a aucun pape qui a fait de la nécromancie.
T'es sûr de ça ?
Ah, je suis sûr à 10 000%.
Ça sera l'objet d'une deuxième émission.
Il y a
un faux pape.
C'est l'un des Grégoire, mais je dirais une connerie.
Il y en a plusieurs. Il y a un faux pape.
De même, il y a jamais.
Qui a déterré un cadavre d'un ancien pape Je crois que c'est Étienne VI de mémoire qui a fait ça.
Mais, 4, je crois.
Mais jamais il y a eu de pape qui a fait des conventions. Non, tu peux pas dire ça, c'est totalement faux.
Ah, je ramènerai là pour le coup. De rentrer dans les détails, je risquerais de dire une bêtise.
Non, il n'y a pas de détails. C'est faux, cher ami.
Non, c'est vrai. Je te ramènerai les autres sources à un moment. De même que les papes ne se sont jamais alliés avec les musulmans.
À ma connaissance, non. Il y a juste... Il y a un moment dans l'histoire où des musulmans se sont battus pour la papauté, c'est sous le Directoire, quand c'est comme ça, c'est qu'il y avait eu une coalition européenne contre le Directoire pour libérer Rome, et il y a des Turcs qui ont participé.
Intéressant, j'avais complètement oublié ça.
Mais non.
À l'époque de la querelle des investitures, il n'y a pas eu un sac de Rome par des Vikings et des dormants de Sicile et des musulmans unifiés au service du pape pour virer qui d'ailleurs? Il n'y a pas eu ça?
Je ne suis pas au courant de ça, mais en tout état de cause, l'Église a toujours combattu l'islam, et même. Au XVIe siècle, quand les rois se désintéressaient totalement de la lutte contre l'islam, ce sont les papes de la Renaissance si critiqués, dont notamment les Borgia, qui ont essayé de motiver les princes catholiques à combattre l'islam, mais ils s'en moquaient. Et je vous donne un exemple, le grand héros anti-islam d'Albanie, Skanderberg, un pape, pardonnez-moi, j'ai oublié son nom, a vendu ses effets personnels pour financer son combat, voyez. Mais personne, malheureusement, les princes chrétiens à l'époque, n'ont pas voulu aller aider Skanderberg. Et bon, et d'ailleurs, contrairement aux idées reçues, l'Albanie n'est pas 100% musulmane, hein, je le dis en passant.
Bien sûr, c'était une pure marne.
Mais cher ami, les papes n'ont pas pratiqué la magie blanche, n'ont pas pratiqué la nécromancie, etc., etc., etc. Peut-être c'est ce qu'on vous enseigne dans vos loges, mais ce n'est pas ce que dit la vérité.
C'est pour le coup une réalité historique, et c'est bien le problème.
Alors, qui a dit ça? Qui a écrit ça? Où? Quand? Comment?
Je pense qu'on peut en trouver un certain... Vous aurez une synthèse...
Moi, j'ai dit que c'est une calomnie et une diffamation. Oh, vous... Donc, ces auteurs sont des calomniateurs.
Ils ne le sont pas, et surtout, la question est de savoir surtout de quelle façon le clergé a justifié sa nécessité.
Mais le clergé n'a jamais justifié la nécromancie, cher ami.
Non, pas la nécromancie, on n'y est pas encore, mais en termes de théurgie. Liv Blavatsky, ça t'intéressera vachement. Dès le début, en fait, on a eu, l'origine du christianisme, en fait. L'origine du christianisme faisait partie des anciens enseignements païens. La tiare vient également des anciennes récupérations païennes. Par contre, pourquoi il y a eu une guerre menée contre le paganisme au début de... En fait, il y a eu
deux... Parce que c'est une fausse religion. Parce que c'est une fausse religion. Le paganisme emmène en enfer. Voilà pourquoi l'Église l'a combattu.
Ok, le sujet, c'est que les catholiques sont combien dans le monde?
Aujourd'hui, quelques dizaines de milliers, je pense.
D'accord. Et les autres croient en quoi?
En des faux dieux, en des fausses religions.
Absolument, toutes les autres religions.
Oui, les dieux des païens sont des démons, c'est dans les psaumes.
Non, c'est un postulat complètement faux, ça.
C'est par contre, la foi catholique.
Par contre, c'est ce que disaient également les chrétiens gnostiques. Le dieu inconnaissable n'a rien à voir avec Yahvé, par exemple. Les conceptions de dieu que l'on a, notamment dans le contexte catholique, sont au mieux partiels et on confond
un
phénicien. Oui, mais après, il faut justement, c'est là où il faut comparer. C'est là où il faut comparer justement les.
Nous avons les miracles, nous avons 2000 ans d'histoire, nous avons des saints, nous avons un magistère infaillible qui ne s'est pas contredit en 2000 ans. Et quand nous reculons, c'est la subversion que tu dénonces qui progresse.
Non, je dis que c'est. Il ne faut pas inverser la cause et la conséquence. En fait, c'est le fait. En fait, c'est les sorcières brûlées et c'est l'histoire de. Les mauvaises les interprétations. Des oui, ça peut s'auto-entretenir sans doute, mais l'un des gros problèmes de la religion catholique, c'est l'absence de compréhension de certains phénomènes humains qui sont réputés être des miracles alors qu'ils sont bien plus existants que ce que l'on pense.
Il n'y a pas de problème de la religion catholique, cher ami.
Bien sûr, mais en tout cas, elle régresse de toutes les façons possibles. Elle est largement subvertie aujourd'hui, et tant si bien que depuis le Vatican II, c'était l'exorcisme du Vatican qui a dit que les fumées de Satan sont entrées au Vatican.
Elle n'est pas subvertie, je dirais qu'elle est éclipsée par le modernisme, qui se fait passer pour le catholicisme et qui n'est pas le catholicisme, puisque le catholicisme ne professe pas les hérésies, contrairement à la religion conciliaire. Le catholicisme n'est pas gnostique, contrairement à la religion conciliaire qui, elle, l'est. Et la fameuse bénédiction des mœurs contre
la
nature.
Gnostique, pas
si,
du tout.
Si, si,
non,
si,
le vrai gnosticisme n'a rien à voir avec ça. Mais c'est pas grave.
Est-ce que le vrai gnosticisme a à voir, selon toi, moi, selon tous les auteurs que j'ai lus, ça a à voir avec une forme de panthéisme, le gnosticisme. Parce que l'homme n'est plus une créature de Dieu, il en est une émanation. Eh bien, dans Gaudium et Spes, la constitution pastorale de Vatican II, on nous dit que le Christ est uni à tout homme et qu'on est, en fait, c'est un enseignement qui sera développé plus tard dans la secte conciliaire, qu'en somme, et d'ailleurs, le dernier texte fait par Tuccio, Dignitis Infinita, ou je ne sais pas quoi, là, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais perdre la grâce sanctifiante. C'est-à-dire que la grâce sanctifiante n'est plus surnaturelle, mais qu'elle fait part de notre nature humaine. Ça, c'est de la gnose pure. Ouais. C'est de la gnose à l'état pur.
C'est pas du tout de la gnose, mais en effet, c'est de la subversion. Alors, pourquoi c'est pas du tout de la gnose et pourquoi c'est avant tout faux?
C'est une hérésie.
C'est qu'en fait, il y a deux choses différentes. Il y a la création de l'homme et il y a l'émanation des âmes. Là, on est dans l'ésotérisme lourd. L'émanation des âmes, c'est quoi? C'est que la véritable conception de Dieu gnostique, c'est qu'il y a un Dieu masculin inconnaissable qui est sans limite, mais qui est esprit, duquel émane Sophia, et duquel émane la matière, qui en, dont, dans sa version la plus subtile, c'est comme l'âme du monde, c'est une âme gigantesque de laquelle nous sommes un petit morceau. La partie la plus haute de notre âme est connectée à l'âme du monde, à une âme divine, qui est déjà une émanation de la divinité masculine. Nous avons une divinité à la fois masculine et féminine.
C'est très intéressant.
Je termine. Masculine est esprit, féminine est matière. C'est au début des âmes, puis après elle engendre également le reste de la matière, mais nous y sommes reliés par la partie haute de notre âme, l'autre partie basse étant globalement le mental ou l'esprit plus bas. Ça serait une conception païenne des choses, gnostique des choses, que l'on retrouve dans absolument toutes les religions du monde, presque sauf le catholicisme, mais je pense qu'il est bon de classer ça, parce qu'après, quand en effet nous avons une religion qui va prétendre que l'humain est créé sans rien, sans aucun lien, pas du tout. Justement, la vraie compréhension enseigne, païenne et gnostique, enseigne que nous sommes reliés aux énergies féminines et aux énergies masculines tout le temps. Vivre, c'est être connecté, mais en aucun cas, c'est que l'humain est auto-créé vers lui-même et n'est relié à rien. Ça, c'est de la subversion.
Ce qui est très intéressant, cher Jean-Maxime, c'est que quand je professe la foi, tu me dis postulat, postulat, postulat. Mais quand toi, tu professes tout ça, tu ne dis pas postulat, postulat, postulat.
Non, mais
j'arrive de le relever.
À ce stade, mais tu as raison. Non, mais tu as raison parce que l'idée, c'est que là, quand on présente un sujet, c'est comme quand tu enseignes. Tu sais très bien que ton savoir doit être éprouvé. La question, c'est pourquoi absolument tous les philosophes les plus renommés ont professé à peu près la même chose à partir des mêmes expériences, mais on peut y venir aujourd'hui par des passerelles. Par exemple, une expérience de mort imminente pour toi. Ça vient d'où? Est-ce que c'est l'émanation du diable? Comment tu expliques ça dans le catholique?
Moi, j'ai jamais creusé la question de la mort imminente de toi à moi.
Tu es obligé parce
et ça m'intéresse assez. Alors, moyennement pour être okay. tout à fait franc.
J'ai une question d'auditeur à Adrien Abosi, Sam, qui nous dit...
Salut Sam.
Pour nous, musulmans, les catholiques se sont détournés du message originel de Jésus en mettant en place le concept de Trinité. Vous avez rendu une religion censée être monothéiste une religion polythéiste.
Non, mais
ce que vous répondez.
Je réponds qu'un musulman professe sa religion et donc il oppose les griefs de l'islam au catholicisme. Mais je lui répondrai qu'il a tort et que l'islam est une fausse religion. Et je vais prier pour ta conversion, mon père Sam, parce que Dieu est trinitaire. C'est comme ça. Alors, les conciliaires...
Ça vient d'où? Quel dogme? Quel concile? À quel moment on a mis ça en place?
Je savais que tu allais en parler.
C'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'enseignait toujours. Après...
Que Dieu était trois?
Mais bien sûr. Non, mais déjà, ça, on le retrouve dans la Genèse.
Là, il va falloir me convaincre.
Quand il y a Elohim dans la Genèse, déjà, c'est l'annonciation de la très sainte Trinité.
En sens que c'est en pluriel.
Cher ami, tout est dans la foi catholique. Après, l'Église explicite... Le dogme, l'infaillibilité pontificale, par exemple, a été explicité au Concile du Vatican, dit Concile Vatican I en 1070, mais les catholiques ont toujours cru que le pape était infaillible. Si vous lisez Saint Alphonse de Ligorie un siècle avant Vatican I, il vous parle de l'infaillibilité pontificale en dans les mêmes termes que le Concile Vatican I. Donc, cher ami, c'est pas parce qu'un dogme n'était pas explicité qu'il n'était pas cru implicitement
mais revenons sur la Trinité.
Par les catholiques. Le Dieu est trinitaire, c'est comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, un grand nombre d'hérésies se sont attaquées à ça, un grand nombre de fausses religions, hein, que ce soit l'islam, la religion talmudique, etc., attaquent ce dogme qui est central. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, c'était la deuxième personne.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, le problème, c'est
justement
que...
Et le Saint-Esprit, la troisième.
Sur ce sujet-là,
j'imagine que vous êtes pas trop d'accord.
Et mon cher Sam, je prie pour toi.
Sur ce sujet-là, ce sont à la fois les musulmans et les juifs kabbalistes qui ont raison, et les catholiques qui ont tort. En tout cas, ça sera ma version. C'est pas qu'il n'y a pas de trinité, c'est que c'est pas la bonne. Mais en effet, en termes d'idolâtrie, ça va être compliqué de se moquer des 330 millions de divinités hindoues, alors qu'en réalité, ce sont en réalité les régents des étoiles principales. En tout cas, ça a un autre sens. C'est pas vraiment du
bon côté. Je prie pour leur conversion.
Non, mais je vais terminer sur ce point. Ça ne remet en aucun cas la compréhension du Dieu inconnaissable dont j'ai parlé tout à l'heure. Le Dieu non anthropomorphisé, et ce sont les musulmans qui ont raison. Et les véritables juifs kabbalistes penseraient également comme ça.
Et en ce sens, dans quel sens ils ont raison ?
Dans le sens que le Dieu inconnaissable a toujours été un et indivisible. Par contre, quand on va idolâtrer, en effet, il y a de bizarres parfois, vous pouvez avoir dans différentes parties du monde des versions de l'adoration de la Vierge qui relèvent de la pure idolâtrie. Ou sinon, on veut en plaisanter, vous aurez, si mon père mon père dirait en plaisantant que si on devait rassembler tous les morceaux de la vraie Sainte Croix du Christ, il y aurait de quoi reconstruire l'Arche de Noé.
Oui,
mais on a plus de rôle.
Mais il se trompe.
Au sud de Chartres, il y a le Saint Prépuce du Christ. Et il y a deux autres morceaux de Saint Prépuce de je ne sais plus quel saint en Italie. Ça s'appelle de l'idolâtrie. c'est un vrai problème.
Non, non, la religion catholique n'est pas un problème.
Et après,
c'est la solution même, je dirais.
Par contre, oui, mais...
Non, mais bon, pourquoi ce serait une idolâtrie ?
J'aimerais vraiment que vous
précisiez, là.
Quand vous commencez à adorer des reliques des saints, comme si c'était le
dieu
inconnaissable, c'est un problème.
On n'adore pas, on vénère, hein, les saints.
Certainement, mais ça peut s'apparenter clairement à de l'idolâtrie du point de vue des autres religions. En tout cas, c'est après 10
ans. Par exemple, Saint-Michel, on idolâtre Saint-Michel, par exemple, ou Saint-Antoine.
Il y a des types d'adhération.
Ou la Vierge Marie.
Ou de procession.
La Vierge Marie, c'est les catholiques qui idolâtrent.
Je dis que ça peut se soutenir d'un point de vue d'une autre religion extérieure. En tout cas, que ça a été toujours le risque de la manifestation dans la représentation artistique du Dieu. Dès lors qu'il est anthropomorphisé, vous avez toujours eu, chez le bas-peuple, ou chez le petit peuple ou autre de différentes époques, cette tentation d'aller confondre ça avec un dieu qui en réalité n'est qu'esprit et auquel nous sommes reliés. Quand vous commencez par plus adorer, je plaisante en parlant du saint prépuce du Christ plutôt que le vrai dieu inconnaissable, il y a aussi une chose, c'est que l'imaginaire doit pouvoir s'accrocher à quelque chose. Le dieu inconnaissable, c'est quand même une abstraction plus difficile à conceptualiser que si vous avez Jésus qui vous sourit ou etc. Ça peut quelque part se comprendre, mais à partir de là, il peut y avoir un risque de s'éloigner de la vraie compréhension de Dieu et surtout du fait que nous sommes reliés, mais que le but n'est pas, l'adoration n'est pas la fin en soi. C'est là où on reviendrait dans une optique, là, pour le coup, Rose-Croix, ou en tout cas de vraie compréhension religieuse ou spirituelle des choses.
Tu as le mérite de la franchise.
Nous devons avant tout agir.
Tu as le mérite de la franchise.
Oui, mais il faut croiser les
choses. Mais tu sais, Jean-Maxime, c'est que là, tu es en train de jeter. Alors, tu ne veux pas parler dogme, entre guillemets. Moi, j'avoue que j'ai la tendance à beaucoup en parler, c'est vrai.
De quoi ?
Dogme. Mais ce qui est très intéressant, c'est que toutes les critiques que tu émets, eh bien, dans ces cas-là, tu attaques 1500 ans d'histoire de France. Qui a reposé sur la foi catholique, sur les saints, etc. Est-ce que tu mesures que tu t'inscris en faux contre l'histoire de ton pays quand tu fais ça ?
Je vais te répondre par Richelieu. L'Église est éternelle, moi pas. Et surtout l'État, non. Mais il y a une vraie différence à faire. L'Église, le parti dévot, a fait faire que des conneries à la royauté, j'exagère à peine, en tout cas au 18e, 19e.
Que des catholiques qui fassent 18e. Des erreurs, qui... bien entendu.
Oui, mais les catholiques, c'est le sens de l'État.
J'ai vraiment la précision sur la Trinité, parce que là, voilà, les gens comprennent pas pourquoi la Trinité, pourquoi Dieu est trois, pourquoi cette Trinité.
C'est comme ça, c'est tout.
C'est insoutenable d'un point de vue de la religion bien comprise.
Et moi, je vous dis pourquoi Dieu ne serait qu'une personne. C'est pareil, c'est les fausses religions se trompent. Le vrai Dieu est trinitaire. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est ainsi que...
Comme ça n'est pas compréhensible par des gens qui n'ont pas vos connaissances.
Par les gens qui n'ont pas la foi. Je vais vous prendre notre exemple.
C'est déjà anti-catholique.
Je vais vous prendre notre exemple. La transsubstantiation. Le fait que ce soit Dieu dans le pain.
Oui.
Les gens vont vous dire, mais pourquoi c'est Dieu dans le pain, c'est que du pain. Non, bah, quand on a la foi, on sait que c'est Dieu. Et que ce n'est pas un morceau de pain, c'est Dieu.
Voilà. Ou bien c'est un
pain. Voilà. Alors, définissons la Trinité. Voilà, je veux vraiment cette définition de la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Oui, je veux vraiment qu'on le définisse pour que les gens puissent comprendre.
Il y a une nature, trois personnes.
D'accord.
Voilà. C'est tout. Il y a le Père.
Oui, ok.
Le Fils en procède. Et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils.
On arriverait vite à la doctrine des émanations et on arriverait vite au paganisme en disant en remplaçant par procède,
non.
En remplaçant procède par émane.
Pourquoi
si l'un émane de l'autre, on est dans la doctrine des
émanations. Pourquoi c'est pas paganisme ? Parce que Dieu dans l'Ancien Testament nous dit je suis celui qui est.
Et que disaient les gnostiques sur le Dieu de l'Ancien Testament ?
Je ne les connais pas les gnostiques. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est ce que dit l'Église quand elle nous dit ce que dit les Saintes Écritures. Mm-hmm. Je suis celui qui est. Nous avons un Dieu créateur.
Et pourquoi c'est pas paganisme ?
Parce que nous, la création est séparée du créateur. Alors que dans le paganisme, c'est l'émanation.
Et la Vierge adora.
Ce point est hyper important.
Allez sur ce point, une minute.
Dans le paganisme, la créature et la créateur sont. C'est la même chose. C'est une émanation.
Absolument faux.
C'est ton appréciation de la question.
Je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est absolument faux. Alors là, pour le coup, je répète.
La Vierge Marie, adoration. Ou vénération.
Alors, je n'ai pas le terme technique, là, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais bon, en tout cas, la très sainte Vierge Marie n'est pas Dieu.
Oui, elle n'est pas.
Mais je n'ai pas le terme technique.
Mais là, on est dans une première émission d'exploration, on ne peut vraiment pas rentrer dans tous les détails aujourd'hui, mais je pense qu'il serait prolifique de se faire ça plusieurs fois sur d'autres sujets.
D'accord,
parce que
alors, est-ce que vous avez la réponse à la question ?
Quand même un boulot à côté, et parfois...
Est-ce que vous avez la réponse à la question
À laquelle
Sur la Vierge Marie.
Sur la Trinité Ah, pour moi...
C'est une vénération pour vous ?
On parle de quoi ? Ah non, savoir si c'est vénération ou adoration ?
Oui. Pour vous, c'est une adoration ?
C'est pas que je m'en fous, mais c'est pareil. Parce que, par contre,
pourquoi c'est pareil ?
Peut-être qu'on dirait qu'on adore que Dieu. Et que
finalement, je comprends pourquoi tu en loges, cher ami. J'ai fini par comprendre pourquoi
non,
tu
non, parce que ça serait du pipoule que de dire l'inverse, comme si c'était exactement pourquoi, pareil. Mais du point de vue, je pense religieux, je pense qu'on adore que Dieu. Donc, par contre, si la Vierge est Dieu, bah, peut-être qu'on peut l'adorer.
Non, mais personne n'est pas... Non, la Vierge n'est pas Dieu, on dit pas ça. Non.
C'est ce que disent souvent les cathos, mais je
ne sais pas. Les
cathos peut-être, mais pas les catholiques.
Non, mais les catholiques, attends.
Moi, je ne comprends pas les écolos et les écologistes.
Les catholiques, les musulmans disent pareil, on adore que Dieu.
Les catholiques portent la Vierge autour du cou. Moi, par exemple, je porte la Vierge autour du cou.
Oui.
Est-ce que je suis en adoration ? Je suis en adoration.
Ça s'appelle un talisman païen, mais c'est très bien.
Mais pourquoi païen ?
Bah oui, c'est ça.
C'est totalement gratuitement ?
Non,
c'est totalement gratuitement.
Dans la vraie définition, qu'est-ce que c'est que le paganisme ? Allons au fond des sujets. Qu'est-ce que c'est que le paganisme ?
Ce sont les religions d'Antiquité.
Non, mais comment ?
Ce sont les religions d'Antiquité.
Le véritable paganisme, c'est la coopération consciente avec les forces de la nature. Voilà la vraie définition du paganisme, et non pas après la définition plus tardive du point de vue catholique, c'est-à-dire enfin chrétien, anti les anciennes religions autres que le christianisme en effet.
Mais c'est la même chose
que je t'ai donné.
Puisque effectivement, il y a l'aspect émanation de Dieu et non pas créature de Dieu. Et nous sommes des créatures de Dieu.
Non, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a les... Alors oui, tout à fait, ça c'est dans le point de vue catholique. Moi j'ai dit tout à l'heure qu'il y a les deux dans le sens où la création crée les corps, certes, mais les âmes émanent de quelque chose. Il y a cette doctrine des émanations, les âmes ne viennent pas de nulle part. Et d'ailleurs, c'est l'origine de la survie de l'âme. Là, pour le coup, les
catholiques... Ah, ça c'est très gnostique, ça, pas. Ça, je joue.
Mais parce que c'est plus complet que la religion.
C'est très gnostique, ça.
Mais par contre, si je pose la question de savoir d'où vient, à un catholique, d'où vient la souffrance dans le monde, réponds-moi et bon courage.
Le péché originel.
Trop facile.
Ah bah non, c'est la vérité.
Faux, historiquement faux, mais
Pour un non-catholique, non, mais si, c'est le péché originel.
Ça a légitimé les théologiens catholiques qui disaient que, donc, comme le Christ est venu qu'à un certain moment, les gens qui sont morts avant le Christ, ils sont tous en enfer, on est d'accord ?
Non, pas du tout. Cher ami, ouais. Les gens ne disent pas ça, puisque dans le credo catholique...
Ça a été dit par des théologiens catholiques, je crois même que Saint-Thomas en parlait.
Ils ne peuvent pas dire ça, puisque dans le credo catholique, il est bien dit que notre Seigneur Jésus-Christ va 3 jours en enfer, et il y va pour que les âmes de l'Ancien Testament, qui étaient des justes, aillent au ciel, justement.
D'accord, et les autres, ils sont toujours ?
Donc, ceux qui sont en enfer sont en enfer. Hein.
Voilà, ça c'est absolument faux, et c'est dangereux.
Pourquoi c'est faux ?
Moi, je pense que c'est la négation de l'enfer qui est dangereuse.
Pourquoi c'est faux ? On va arriver sur un point, parce que là, on est dans le gros problème de la grosse création du clergé catholique, historiquement, c'est-à-dire l'enfer. L'enfer n'existe pas tel qu'on le comprend.
C'est très dangereux ce que tu dis là.
Mais tu vas comprendre pourquoi je le dis, surtout. La question est de savoir, et après, ça sera Vox
Populi.
Non, c'est pas Vox Populi, c'est Vox Dei.
Non, c'est Vox Dei.
Attendez, ne vous coupez pas. Pourquoi ça n'existe pas ?
C'est pas que ça n'existe pas, mais ça n'existe pas sous la forme de quelque chose qui est absolument fataliste. Ça, c'est une invention du clergé pour légitimer le cléricalisme. C'est-à-dire que quand le clergé vous dit que l'enfer ne bougera pas, quand Jésus en parle de la Géhenne, c'est une allégorie par rapport à l'ancienne vallée dans laquelle les Hébreux de l'Ancien Testament sacrifiaient leur bébé, etc. Mais c'est une allégorie d'une autre idée. Néanmoins, le véritable enfer, bien compris, en réalité, c'est que les âmes qui sont vraiment dans le péché peuvent y rester longtemps et peuvent stagner ensuite.
D'où tu sors ça ?
C'est la connaissance croisée.
Non, mais où tu vas chercher cette connaissance ?
Platon, Pythagore, Ammonius Saccas.
Mais ça, c'est l'avant.
Jésus n'en a été que l'un des successeurs.
S'il te plaît. C'est la provocation, là.
Non, je dis la réalité, c'est que des prophètes, il y en a eu d'autres avant, il y en a eu d'autres après. En tout cas, les musulmans ont raison là-dessus et ça nous
pose problème. Non, il n'y a pas de prophète.
Les musulmans ont raison sur le Christ.
Jésus était un prophète adombré par Christos
et Sophia. Un messie, là, le fils de Dieu. Et l'enfer est une vérité de foi.
Pas chrétien, alors ?
Si, mais chrétien au véritable sens du terme.
Non, mais cher ami, tu nies la Trinité, tu nies l'enfer.
Non, je suis désolé. Là, Jean-Maxime, vous n'êtes pas chrétien. Tiens, juste un commentaire.
Nous avons oublié une grande partie des enseignements chrétiens. C'est mon sujet.
Excuse-moi, Vierge Marie, très sainte, est égale hyper du lit, qui n'est pas adoration.
Voilà.
Et je remercie.
Merci, c'est Bernard.
Bernard, voilà.
Merci Bernard.
Andrea, attendez. Je vais répéter. Ouais. Andrea qui nous donne 10 euros. Merci, cher Andrea, pour ces 10 euros. Voilà. Je redis, Bernard, Vierge Marie, très sainte, est égale hyper du lit, qui n'est pas une adoration.
Mais c'est quoi ? C'est un adjectif, hein ?
Hyper du lit ?
Oui, je ne sais pas.
Non, c'est un nom.
Je n'ai jamais entendu ce mot.
C'est un nom.
Ah oui.
Et donc, c'est quoi l'hyper du lit ?
C'est que ce n'est pas de l'adoration, voilà.
Ce n'est pas de l'adoration.
Mais c'est un terme très technique.
D'accord. Ok, je
n'ai pas compris. Alors, le fait que. Attendez, on va peut-être. On va un peu continuer parce que le débat est très intéressant.
Sur la continuité sur l'enfer.
Oui, le débat est très intéressant parce que je ne pensais pas qu'on allait aller là-dessus. se dire chrétien et nier la divinité du Christ.
Elle est artificielle. Et c'est nier... déjà l'idolâtrie.
Et dire qu'elle est prophète après.
J'ai besoin d'explications là.
C'est déjà de l'idolâtrie. Christos est un principe qui adombre Jésus, c'est-à-dire une possession positive.
Donc, hyper du lycée.
Jésus est un homme particulièrement pur.
Excusez-moi, je définis. Hyper du lit. Excuse-moi,
ouais, tu vas voir.
Je remercie la technique qui m'apporte en direct parfois de certaines informations, et bravo à lui. Hyper du lit, culte rendu à la Vierge Marie, supérieur au culte de Duly, rendu au saint. Voilà.
Hyper intéressant. Hyper intéressant.
Allez,
merci
maintenant,
beaucoup.
Merci, voilà, sur ton... merci à la technique, vas-y.
C'est comme sur Radio Courtoisie quand t'es déçu par des gens intelligents, c'est extraordinaire.
Vas-y.
Donc, deux choses. Sur la Trinité, je reviens rapidement dessus. Ma version de la Trinité, c'était celle dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir un Dieu inconnaissable qui est esprit masculin.
Ta version.
De laquelle émane la version sur laquelle tous les paganismes du monde entier se rejoignent. C'est le fruit de l'expérience éprouvée selon des millénaires. Si les catholiques disent autre chose, je n'en suis pas responsable, mais je m'inscris en faux et je dis que c'est
Non, mais c'est pas chrétien même.
D'ailleurs, je suis en train de dire que c'est ça qui a. Bien sûr que c'est chrétien. Mais il faut
comprendre. De dire que Jésus est un prophète.
Attends, c'est deux choses différentes. Oui, c'est la même chose, mais j'ai dit que durant les quatre premiers siècles de la chrétienté, l'Église a initial, les dogmes ont solidifié la moitié du christianisme.
D'où tu sors ça?
En croisant toutes les sources, vous aurez une synthèse extraordinaire.
Quelle source?
Dans Blavatsky, mais c'est en sourçant justement.
Blavatsky?
Origène était l'élève
de. On parle de la même, là?
Origène était l'élève de qui? Ammonius Saccas. Qui était-il? Grand théurge. Si après, on est obligé d'arriver sur des points plus techniques, mais là, ça vaudrait d'autres émissions, parce que là, on est obligé de faire un survol. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il existait des connaissances pré-chrétiennes desquelles, en fait, le christianisme initial n'était qu'une confirmation à destination précisément des juifs, qui étaient notamment dans une errance.
Mais quand il dit « je suis le fils », ou quand il dit « mon royaume est dans les cieux », c'est quoi?
Différents peuples, à l'époque, avaient des croyances spirituelles qui les égaraient vers le fanatisme. Les juifs notamment, mais pas que. Plusieurs peuples, c'était des dégénérés.
Avant notre Seigneur Jésus-Christ, c'était...
Les chrétiens avaient été des héritiers. Et d'ailleurs, après les guerres judéo-romaines, les pires fanatiques juifs qui ont échappé à Rome se sont réfugiés où? À Médine, tiens donc. Et c'est selon les sources juives elles-mêmes, Heinrich Graetz en l'occurrence, ça veut dire que quand Mohamed est confronté, soi-disant, à des juifs extraordinairement mignons et gentils, et qui finit par leur mettre une rousse parce qu'à l'époque, il n'y a plus le droit romain, il n'y a plus l'Empire romain pour les protéger, est-ce que c'est Mohamed qui a raison? Est-ce que c'est les juifs qui ont raison? Je ne sais pas. En tout cas, le doute est permis.
Je veux une réponse sur le Christ, parce que là il est allé très loin. Je veux une réponse.
Alors, c'est quoi la question, précisément?
Il parle de prophète.
C'est le Messie. C'est le Messie, en fait. Et c'est Dieu.
Et je voulais juste terminer sur la...
D'ailleurs, je me suis trompé. J'ai employé le mot émaner. En fait, c'est procéder que j'aurais dû dire. C'est procède. Il procède.
Non, tu avais dit procéder. C'est moi qui avais plaisanté sur le fait que...
Ah d'accord, autant pour moi, alors. Autant pour moi. En fait, je suis à peu près en désaccord sur tout, cher ami, et j'ai pas le temps de te reprendre.
C'est le jeu.
Parce qu'en plus, notre ami, je n'enregistre pas tout ce qu'il dit, parce qu'il parle vite. Donc, c'est pas simple. L'enfer, en tout cas, c'est une vérité de foi.
L'important, c'est le Christ. La réponse sur le Christ, là,
sur
je
le
pense
Christ,
que ça, c'est
je radote, important, hein. Ça. C'est la deuxième personne de la très sainte Trinité. C'est Dieu. C'est un Messie. Et il n'y a pas de prophète après notre Seigneur Jésus-Christ.
Bah oui.
Il n'y en a pas.
Après, c'est les faux prophètes.
C'est un postulat.
Ah bon, c'est les paroles du Christ.
La réalité historique, c'est que à chaque fois
que tu es chrétien, tu ne crois pas à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ.
Je comprends, mais là, franchement, je ne comprends pas.
Rien n'est impossible à Dieu. S'il veut envoyer un autre prophète après...
Il ne peut pas se contredire, le bon Dieu.
Qu'est-ce que t'en sais?
Le bon Dieu ne peut pas se contredire.
Ne pense pas à sa place, je pense qu'il est plus intelligent que toi.
Si vraiment tu veux le bon Dieu, ne peut pas se contredire.
C'est un point de vue.
C'est le point de vue catholique.
C'est aussi le problème des prophéties.
Les faux prophètes, c'est un point de vue.
C'est aussi le problème des prophéties. Elles sont, par définition, en partie orientables. Et il faut être bien malin pour oublier que les voies du Seigneur étant ce qu'elles sont, je n'irai pas postuler que Dieu a déjà tout dit.
Je ne suis pas de ceux... Moi, je ne méprise pas les prophéties, parce que saint Paul nous dit de ne pas mépriser les prophéties. Mais il faut y aller avec précaution. Surtout aujourd'hui, parce que l'Église est éclipsée. Donc,
que disait l'Apite de Delphes sur la bataille de Salamine? Elle l'a donnée pour perdue. En effet, les prophéties ont une part d'orientable en fonction de la conscience spirituelle, en fonction de...
Alors, de conditionner, je dirais, parce que les prophéties, souvent, sont en partie des menaces pour dire si vous ne changez pas de vie, si vous continuez à pécher,
absolument,
vous allez ramasser. Voilà.
Et je dis qu'à deux conditions près, on peut les infléchir par certains égards, c'est-à-dire premièrement la foi, deuxièmement les œuvres, mais basées sur une volonté supérieure, justement, de conjurer un mauvais sort. En tout cas, c'est la leçon de la bataille de Salamine, pour le coup, et c'est tout à fait juste. Là, pour le coup, c'est vraiment une leçon de l'histoire européenne.
Vous avez une vision, je veux le dire, musulmane du Christ.
Sans provocation. Tu as raison sur ce point, ce n'est pas de mon fait, ce n'est pas de ma faute.
Sans provocation.
Christos et Sophia sont deux principes divins qui adombrent des hommes préparés, ou même des femmes parfois, hein, ça arrive aussi, soyons pas que sexistes, mais le dogme de la divinité du Christ, c'est déjà de l'idolâtrie, c'est un postulat qui a été posé
la vérité.
Après. Oui, mais ça reste d'un point de vue religieux.
Sans aucune provocation de ma part, mon cher Jean-Maxime. Ouais. Sans aucune provocation de ma part. T'es beaucoup plus proche de l'islam que.
Ah oui.
Mais peut-être que sur un point, l'islam peut avoir raison.
Non.
Ça ne veut pas dire qu'ils auront raison sur tout, mais il y a aussi autre chose.
Si, l'islam, c'est aussi un code unique, c'est un autre. Toute erreur contient une part de vérité.
Pas forcément.
Donc, dans l'islam, il y a des parts de vérité. Les musulmans, je crois, adhèrent aux 10 commandements, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis pas spécialiste à l'islam.
Donc
il y a des parts de vérité. Dans toutes les fausses religions, il y a des parts de vérité. Les juifs talmudiques adhèrent à la Genèse, me semble-t-il.
Alors, une chose. Je comprends.
Mais la vérité, c'est le catholicisme.
J'aimerais qu'on ne dise pas fausse religion.
Si, c'est la vérité.
Bon, c'est un point de vue catholique.
En tout cas, c'est voilà, c'est votre point de vue.
Ce qui sera intéressant, ça sera d'inviter.
C'est le point de vue de l'Église.
D'accord, très bien.
Qui pourront dire l'inverse, c'est de faire des débats.
Mais je veux pas non plus. Enfin, faut pas non plus. Je veux dire, on est courtois entre nous.
Mais c'est la charité que
je ne veux pas blasphémer, même les autres.
On dirait de la correction fraternelle.
Et même si je ne crois pas dans la religion musulmane, parce qu'ils ne croient pas dans le Christ comme étant le Fils de Dieu. Attendez, comme étant le Fils de Dieu, je ne veux pas avoir des paroles blessantes.
Mais je ne crois pas blesser les musulmans en disant que j'ai pris pour leur conversion, cher Maïk. Je ne crois pas. Et je leur souhaite le meilleur, à commencer par la conversion.
Il y a aussi une chose, c'est que les musulmans, on confond les musulmans et les wallahs sur le Coran, les musulmans doivent aussi, justement, lire le Coran dans lequel il n'y a pas de contrainte en religion. Ça veut dire que ce n'est pas parce que Adrien va dire que c'est une fausse religion que, nécessairement, personne ne va évoluer dans l'équation. En tout cas, l'important est de pouvoir discuter, quitte à le faire à armes courtoises, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le débat. On débat.
Et je suis quand même très surpris par vos positions, vous qui vous dites chrétien, cher Jean-Maxime.
Mais parce
le
que...
fait de dire que le Christ n'est que prophète...
Je n'ai dit que Jésus n'était que prophète. Est-ce que j'ai dit que Christ était prophète? Non. Pourquoi, par contre, dit-on Jésus-Christ? Parce que Jésus, l'homme, est adombré par Christos, le principe. Mais on
Jésus est adombré par Christos, un homme préparé, un philosophe.
On peut être dans ce genre d'idée-là, mais ça serait plus vrai. Par contre, le Dieu n'a jamais été anthropomorphisé. Jésus n'a jamais été Dieu sous sa forme humaine. Jésus a été adombré par Christos, l'émanation masculine du Dieu inconnaissable. En effet, mais également de Sophia, émanation féminine.
Alors, je confirme que ça, c'est plus dans les loges qu'on enseigne que dans les églises.
Non, absolument pas. si je rencontre un jour un franc-maçon qui sait ça, ça doit exister en effet, mais je n'ai jamais vu ça en franc-maçonnerie.
D'accord.
Pourtant, ça doit faire partie de ce qu'il devrait connaître, mais je n'ai pas encore vu qu'ils y connaissent. Je dois préciser quelque chose, parce que c'était ce qu'Alain Pascal avait cru dès que je m'étais déclaré franc-maçon. Je n'ai absolument rien appris de la franc-maçonnerie. Allez, on va dire 5% peut-être, en tout cas comme piste, mais quasiment rien. Par contre, le début...
Mais là, il faut que tu désapprennes, là. Il ne faut pas que tu apprennes, il faut que tu désapprennes, cher ami. Là.
Ou alors, un jour, si on en parle au fur et à mesure, je pense que je vais te gratouiller un peu dans tes certitudes, au moins à partir des anciennes connaissances qui sont juste oubliées, en fait.
Et tu ne peux pas gratouiller l'enseignement de l'Église.
Oui, non, mais c'est un postulat.
Tu opposes des connaissances humaines réelles ou erronées, selon moi erronées, mais bon, selon toi réelles, je l'entends, à la foi divine.
Tu peux pas. Non, du point de vue catholique.
Oui, mais c'est la vérité.
Qui justifie le clergé catholique, parce qu'il faut absolument que tu crois, parce que sinon tu vas en enfer.
Mais bien sûr.
C'est faux, c'est un
mais bien sûr, cher ami. C'est la vérité.
Alors pourquoi on ne la retrouve que dans
la religion catholique ? Et c'est charité que de le dire.
Ouais.
Et parce que le catholicisme, c'est la vérité, et que les autres religions sont fausses.
D'accord.
Et que le démon, pour te tromper, tu sais, le démon, pour te tromper, il n'est pas débile, hein. Mm-hmm. Il ne va pas te dire d'aller dans une voie qui n'est pas vendeuse.
Ça serait juste en ce sens. Par contre, quelle est ton expérience ?
Et d'ailleurs, le catholicisme, c'est la seule religion qui te demande de dominer toutes tes passions.
Absolument faux.
C'est extrêmement dur.
C'était le message des Rose-Croix, c'est le message de l'islam, c'est le message de Pythagore.
Non.
Connais-toi toi-même, ça veut dire quoi ?
Connais-toi toi-même, ça veut dire que tu dois dominer tes passions. Et d'ailleurs, Platon...
Bien sûr, en effet, ça venait d'avant.
Platon n'a jamais professé d'ailleurs la morale catholique.
Elle n'existait pas encore, par contre.
C'est ce que j'entends te dire.
Se prétend universel, c'est qu'elle a pu exister aussi avant, sous d'autres formes.
Non, elle était en gestation dans le mosaïsme.
Non.
Si.
Ils ont repompé, mal repompé.
La vraie religion avant la venue du Christ, c'était le mosaïsme. Mm-hmm. Et quand le Christ est venu, c'est le catholicisme.
Et avant le mosaïsme, il y avait quoi ?
Il y avait quoi avant le mosaïsme ? Il n'y avait rien.
Adam Dera, on parle de quoi ?
Pardon ?
Adam Dera, on parle de quoi ?
Je ne connais pas ça.
Le plus ancien temple égyptien, de quoi on parle ?
Ah ça, c'est une fausse religion, ça.
Ah non, c'est fondamental de la connaître, puisque le christianisme en vient. Là on va s'éloigner.
Il y avait Monseigneur Gaume en parle mieux que moi de ce qu'il y avait avant le mosaïsme, donc je renvoie au catéchisme de persévérance. Parce que là, techniquement, je n'ai pas les termes, je m'en excuse.
Mais le problème, c'est que si on va au fond du sujet, on va arriver à une butée.
Mais il n'y a pas de...
Desquels... Alors, que disait l'empereur...
T'as 1500 ans d'histoire de France devant toi.
Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, mais si la France est dans cet état aujourd'hui, je dis que c'est parce qu'elle s'est fait gravement affaiblir, parce qu'elle était affaiblissable. C'est bien le sujet. Et c'est le sujet également de ce que les francs-maçons comprennent.
Elle est devenue affaiblissable parce qu'elle avait apostasié, justement. Et avant 1789, il y a une partie beaucoup trop grande des élites et de la population qui avait apostasié.
Okay. Avant l'apostasie, le clergé catholique a-t-il toujours été juste dans
mais
sa...
Mais le clergé a pu faire des erreurs.
Oui, c'est
le clergé a pu faire des erreurs.
Et affaiblir l'Église catholique et donc
mais dans son enseignement,
la subversion de la France. C'est le sujet, en effet.
Infaillible. Mais le catholicisme a porté toute l'histoire de France, cher ami. Comment tu peux
là
dire ça?
Là aussi, par certains égards, mise en danger lorsque...
Mais bien sûr que...
Révocation de l'Édit de Nantes, par exemple. C'était l'un des pires...
La révocation de Nantes, mais on peut plaider qu'elle n'était pas opportune au moment où elle a été faite et la façon dont elle a été faite.
Paul Marie Couteau, qui était là la semaine dernière, m'a dit qu'il était favorable à la révocation de
l'Édit de Nantes.
La révocation de
n'est pas choquant, c'est un point de vue moral, parce que les États protestants font la même chose chez eux. Et il y avait
un principe... État dans l'État.
Il y avait un principe qui était tel prince, telle religion.
La Saint-Barthélemy, oui, je l'ai écrit dans notre premier article GP, elle a bien fait de déclencher, parce que sinon quoi? Sinon, Henri IV allait être égaré par Sully dans la guerre de 80 ans et la France qui était encore convalescente financièrement. Voilà. Tout ça, c'était dans mon article de GP, le
ça
premier.
Peut, ça peut se plaider.
Et de même que la révocation de l'Édit de Nantes, ce qu'on ne dit pas d'ailleurs, c'est qu'il y avait une puissante subversion protestante.
Après, ce qui est dommage, c'est que les Huguenots français, malheureusement, sont venus aider à restaurer la Prusse.
Absolument.
Et ça a été un grand dommage pour nous, malheureusement.
Gros problème, par contre, là, sous un autre angle.
Faut pas faire d'anachronisme, parce que savait Louis XIV de la situation vraiment des protestants précisément? Il n'y avait pas des enquêtes sociologiques comme aujourd'hui, etc. Voilà, donc bon.
Oui, mais l'enquête sociologique...
Mais moralement la révocation en elle-même n'est pas condamnable. Voilà.
Ça dépend pourquoi, tu as raison, parce qu'à l'époque, on sous-estime, et c'est notamment l'appréciation anglo-saxonne de la guerre de 30 ans, on sous-estime que derrière le protestantisme...
Et je ne suis pas un grand fan de Louis XIV, je précise.
Pour le coup, un peu plus. Louis XI, Louis XIV, Louis XVI sont vraiment parmi nos plus grands rois.
Je pense que Louis XIV, il a contribué grandement à nous mettre
nous a fait
dans la mouise.
La guerre. Non, t'as complètement raison, et pour le coup, ta synthèse est excellente là-dedans.
Et encore là-dedans, je suis encore gentil avec lui, je trouve.
Oui, j'ai remarqué.
Je suis encore gentil,
ça m'a étonné.
Il n'aime pas trop les Bourbons, c'est ça?
Ah bah les Bourbons,
non, mais il a la guerre. Non mais Louis XIV a trophé la guerre.
Sauf Louis XIII. Louis XIII était un roi pieux, il a consacré la France à la Très Sainte Vierge Marie.
Est-ce qu'il était homosexuel?
Mais non, arrêtez. C'est quoi ces calomnies là? Arrêtez.
Je voulais faire réagir.
Je crois que c'est Beaumarchais qui disait, ou non, ou c'est Euclide, je confonds toujours. Ce qui est affirmé sans preuve, peut être nié sans preuve.
C'est vrai.
Et j'en profite pour pousser un coup de gueule, c'est que j'en ai marre. Le réseau social, c'est l'ère des on-dit, c'est l'ère de la médisance, c'est l'ère de la calomnie. C'est pas parce que le premier taré ou le premier conspidingo dit un truc sur un réseau social que c'est vrai.
Absolument.
Voilà, donc non, ne calomniez pas Louis XIII.
Je voulais vous l'entendre dire.
Ni Alexandre VI.
Même qu'il faut pas se laisser embarquer par les commentaires malveillants, ça c'est quelque chose que j'ai appris grâce à GP en effet.
Le commentaire est quasiment malveillant par définition.
On va passer à la troisième partie, chers amis. En tout cas, c'est un débat de très haut niveau. Hein.
Et on a
troisième partie.
On a fait que commencer
et
à toucher
les petites annonces avant ça.
Le 12 avril est un jour spécial. C'est la journée nationale de la réglisse.
Ah, d'accord. Oui.
Mais surtout, Géopolitique Profonde fête le premier anniversaire de sa revue. J'imagine que vous connaissez notre revue mensuelle.
C'est-à-dire, au début, j'ai regardé ça d'un petit peu loin.
Alors, pour souffler cette première bougie comme il se doit, le 12 avril sera diffusée une émission spéciale anniversaire, avec de nombreuses surprises. Alors, pour connaître ces surprises, abonnez-vous et activez la cloche.
Merci à vous d'être si nombreux, presque 5000 personnes en même temps avec nos comptes X. Continuez à nous soutenir avec le Tipeee Stream. C'est votre émission. Continuez à nous soutenir et nous continuerons à faire ces émissions que vous trouverez nulle part ailleurs. Voilà, ce type de débat, il n'y en a pas. Faut se dire, vous regardez chez les uns et les autres, il n'y en a pas. Et surtout pas chez les subventionnés. Donc, vous cliquez sur le lien. Vous voyez, on va même faire un petit cercle. Voilà, pour que ce soit plus facile. Troisième partie, donc, franc-maçonnerie, mythe, voilà, fantasme et réalité. Voilà. Est-ce qu'on fantasme aussi sur ce qu'est la franc-maçonnerie, cher Adrien?
Ça dépend de qui vous parlez. Il y a des gens qui fantasment dessus, il y en a qui ont une vision juste dessus. Alors, j'espère avoir une vision aussi proche de la réalité que possible. Le magistère de l'Église mène un peu à ça. Mon expérience personnelle m'aide un peu à ça aussi. C'est vrai qu'après, il y en a qui ont trop tendance, peut-être parfois, à exagérer son influence, c'est pas impossible.
Est-ce que la Troisième République, est-ce qu'en Cinquième République, elle a la même puissance qu'en Troisième République.
Pas tout à fait. Non, en fait, si vous voulez, le niveau atteint sous la Troisième République était tellement monumental que c'est très difficile de faire autant sous la Cinquième. Mm-hmm. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un réseau très influent sous la Cinquième. Et puis, bon, la Cinquième, c'est aussi une période de l'histoire qui est complètement différente parce qu'il y avait des relatives autarcies avant la Seconde Guerre mondiale dans les pays. Je dis relatives, hein, entendez-moi bien. Aujourd'hui, il y a des réseaux, notamment étrangers, beaucoup plus qu'il y avait autrefois. Vous voyez ? Donc, il y a des réseaux qui sont venus supplanter parfois, effectivement, la Cinquième, ou je dirais peut-être parfois se fondre.
Oui. Ou infiltrer, ou détourner.
Voilà.
Ou...
Mais attendez, la nouvelle loi là, sur le suicide assisté.
Ah bah là, je pense que les maçons.
C'est une loi maçonnique.
Ah bah évidemment.
Voilà. Donc ça.